One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
C'est une des clés, je pense, c'est qu'il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas. La distance, elle est symbolique, ça n'existe pas. Il l'a fait, tout le monde peut le faire.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui ont choisi d'écrire leur histoire. Oui, le slogan change à nouveau. J'en parle dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'accueille Raphaël Carlier, plus connu sous le nom de Carlito. En 2017, la chaîne YouTube McFly et Carlito, qu'il tient avec son ami McFly, a explosé, passant de 500 000 à 3 millions d'abonnés. Un succès qui vient récompenser une amitié de longue date. McFly et Carlito se connaissent et s'amusent depuis qu'ils ont 15 ans. On aborde les 3 millions d'abonnés YouTube, les raisons de ce succès et la nécessité de faire une pause. On revient sur l'adolescence de Carlito, sa rencontre avec McFly, ça parle de gomme et de prépuce. On parle de gérer la notoriété, de cultiver sa créativité et de ne pas se mettre de barrières, mais surtout, on part dans de gigantesques digressions qui me font dire qu'on a passé un très bon moment. Souscrivez à un abonnement sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Podcast Addict et compagnie, c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute.
Et surtout, si tu dis des trucs que tu voulais pas dire, tu me dis et puis on les coupe, ok?
Wow, je crois pas que ce soit trop mon genre, mais ouais, ok.
Non mais c'est au cas où, que ça tu peux dire un peu ce que tu veux.
Dieudonné.
Souscrivez un abonnement à Dieudonné.
On fait le point Goldwyn très tôt. Dieudonné. Transgenre. Islamisation.
Voilà. Voilà. Ce sera dans l'épisode.
Je donne des mots-clés.
Ok. Ce sera les hashtags de l'épisode. Salut Carlito.
Ouais.
Raphaël Carlier.
Absolument.
Très heureux de te recevoir sur Nouvelle École.
Pareil, je suis heureux d'être là. C'est trop cool.
J'ai beaucoup regardé vos vidéos. Ce qui est du coup assez particulier parce que je rate pas trop YouTube et je rate plus trop YouTube.
Ouais.
Mais vos vidéos sont arrivées à moi par le bouche à oreille.
C'est moi qui pose les questions.
Allez.
Pourquoi tu regardes plus trop YouTube?
Parce que sinon, j'arrive plus à travailler.
Ah, c'est chronophage.
Ouais, c'est très chronophage.
Ah,
et puis en plus. J'ai l'impression que les choses que je vois ou sur lesquelles je tombe en tendance, etc., finalement me correspondent moins.
Ah, les sacrées tendances, bah oui, hein, c'est sûr. C'est pas personnalisé, c'est les tendances, quoi.
Ouais, et puis... Non, mais alors les trucs personnalisés, c'est... Moi, j'ai que des recommandations de vidéos, genre des interviews de Eminem et des trucs comme ça, donc si au bout d'un moment... C'est... Ouais, je...
Ah ouais, pourtant c'était tes cookies et ton historique.
Ouais, ouais, bah,
t'aimes pas Eminem?
Parce que j'adore Eminem.
Ah oui, voilà, oui, mais t'as que ça. Ouais.
J'ai que ça, c'est vrai. C'est genre si j'ouvre YouTube et j'ai que ça. Et des trucs genre des tutoriels de comment monter un podcast, tu vois. Donc bah c'est genre, oui. Je suis là, bon, en effet, c'est pas.
Ouais, voilà.
Mais donc, ouais, dans vos vidéos me sont arrivées par le bouche à oreille et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que pour que ça me touche autant, vous aviez dû réussir à taper dans un truc vraiment fédérateur, quoi. Puisque d'ailleurs, vous venez d'atteindre 3 millions d'abonnés.
Carrément. Il y a deux jours, là, au moment où on se parle, ouais, c'était quand? Ouais, avant-hier.
Et vous avez sorti une vidéo avec les meilleurs moments, etc.
Ouais. Et après, pour les 3 millions, on a sorti la vidéo avec Gad Elmaleh.
Ouais, absolument. Voilà. Et là, vous prenez des vacances.
Oh, ça y est, après-demain, je pars.
Tu pars où?
Je pars à l'île Maurice.
Ok, trop cool.
Je prends les sous de YouTube.
Ouais.
Et voilà.
Et ça fait ses premières vacances depuis quand?
Pff, mec, c'est chaud. Nous, on n'est pas des gros vacanciers, des gros voyageurs, tu vois. Et là, c'est la première fois qu'on gagne vraiment ça, bien notre vie, tu vois. Donc, on se fait plaisir. C'est la première fois que j'emmène ma famille, tu vois. Je suis trop fier. Venez, on se barre, on prend l'avion, on va sur une île, on s'en bat les couilles. On profite vraiment.
Vous avez eu une croissance absolument dingue sur cette année.
Ouais.
Je sais pas, si je regardais tout à l'heure un peu, je crois que vous étiez environ à peut-être 500 000 abonnés il y a un an, un truc comme ça.
Alors, tu sais, je t'avais dit avant ça que j'étais nul en mémoire et tout, mais
Je regardais sur ton Instagram, voir les posts que tu mettais. Et il y a un an, tu disais, je crois, t'étais vers 500 000, un truc comme ça.
Ça doit être un truc comme ça, ouais. C'était fou, ouais. Ça s'est passé très bien pour nous.
Comment tu te sens quand tu vois genre 3 millions d'abonnés? Est-ce que tu te dis un truc spécifique ou?
En fait, là, le 3 millions, je le voulais parce que c'est le top 20 des YouTubeurs France. Donc, c'est symbolique. On n'est pas trop là-dessus, mais un peu quand même. Et donc, ça fait plaisir. C'est un vrai stade de là pour, je ressens un peu un truc de reconnaissance, tu vois. Symboliquement, je me suis dit, il se passe un truc à 3 millions quand même, tu vois. Et, mais non, après, avec McFly, une pensée pour lui, d'ailleurs, qui s'occupe de son enfant à l'heure actuelle. On est un peu on a envie, quoi, d'être aux 4 millions. Hein. C'est que ce qui se passe dans notre cerveau.
Il y a un côté compétiteur ou
Non, mais on veut toujours aller plus loin. C'est toujours comme ça.
Ça fait hyper longtemps que vous bossez ensemble. Comment tu l'expliques cette accès? Parce que McFly, tu l'as rencontré, je crois, il y a peut-être 15-16 ans, un truc
exactement,
comme ça.
Exactement, ouais, au Bahut.
Vous aviez 15 ans et vous avez commencé à faire des vidéos ensemble.
Ouais.
Et comment t'expliques l'accélération soudaine en 2017 de vous faites finalement x6 en gros en termes d'abonnés, etc.
Ouais. Tu lui demanderais à lui, il dirait que les planètes s'alignent. Et moi, je lui dirais d'arrêter de mettre ça sur le sort des planètes. Mais quelque part, il a raison dans la formulation. Je veux dire, c'est un concours de plein de choses, tu vois. Pour moi, c'est toujours de l'équilibre. Là, à un moment, il s'est passé une bonne décision. On est parti de Golden au bon moment, tu vois. Ça se passait très bien, Golden, pourtant.
Golden Moustache.
Ouais, Golden Moustache.
Pourquoi vous êtes parti de Golden Moustache?
Parce que David m'a dit un jour, viens, on fait le dab. Tu sais, j'effectue le dab.
C'est votre première vidéo, ouais, de votre chaîne. C'est quand vous avez renommé votre chaîne McFly Carlito.
Ouais, c'était un peu ça. Où on s'est dit, lui, il m'a dit, viens, on fait juste à nous deux, pas forcément sur Golden. On hésitait, tu vois.
Et vous aviez peur que ça fonctionne pas, ça?
Peut-être, ouais. On s'est dit, tu sais, Golden, c'est un public un peu plus fiction. Tu vois, ils ont été nourris au surrigate et tout. Faut faire les choses bien. C'est plus de la fiction appliquée, quoi. Et là, le dab, c'était, on part à l'iPhone, on fait des gags. On adore, hein. Et c'est pas du tout nul ou débile. C'est juste un peu plus perso, un peu plus débile quelque part, le dab, quoi. On fait le dab dans plein d'endroits différents. Et non, il a eu cette bonne idée et ça a été comme un élément déclencheur, mais tout allait bien chez Golden, mais on s'est dit, viens, on en profite.
Quand vous avez sorti la vidéo, ça a marché, c'est ça? Et ensuite, vous vous êtes dit, du coup, on quitte Golden Moustache?
Du coup, on s'est pas tout de suite dit, on quitte Golden, parce qu'on était vraiment bien, c'était vraiment comme une famille, mais on s'est dit, c'est intéressant, ce serait intéressant de refaire du YouTube juste à nous deux, tu vois. Et après, plein d'éléments, comme je t'ai dit, ça tombait au bon moment. À l'époque, donc il y a un an et quelques, YouTube, on commençait à se dire, mais il se passe plus grand chose. Mais en plus, je critique personne, mais genre, je me disais.
Vous aviez l'impression d'une stagnation un peu ou d'un.
Pour YouTube, justement, quand on regardait les tendances, on se disait, merde, il y a peut-être un boulevard là, il y a des trucs à parodier, c'est pas possible, ces gens qui prennent ces challenges au premier degré, c'est pas possible, tous ces trucs. Il y avait un truc qui se passait dans l'air, on se disait, viens, on en rigole, c'est parti, parce qu'on a commencé avec des parodies vraiment, tu vois. Et voilà.
Ouais, vous disiez, il y a une place pour se moquer de des trucs qui existent, donc en fait, vous aviez envie de voir ces choses sur YouTube, c'est ça un peu?
Ouais, voilà, il y avait plusieurs trucs. On a envie d'être libre, on avait envie de re-rigoler à nous deux. On avait envie de plus avoir forcément des contraintes de production. Tu vois, Golden, c'est quand même très calé, c'est le groupe M6. Il y a Dire de prod réel et tout, c'est chambé quand tu veux faire des fictions, que t'as envie de raconter des histoires, mais on a envie de juste rire, tu vois, comme on l'a toujours fait avec David. Il y avait plein de raisons mélangées, quoi. Et aussi, on se disait là sur YouTube, il y a moyen de parodier des genres quand même qui sont vraiment craignos.
Vous aviez l'impression d'être un peu moins créatif ou d'arriver à être un peu moins créatif qu'au début ou...
Peut-être un peu, mais c'est juste que tu travailles en équipe et c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Tu rencontres Flaubert, Méniel et Lucien, tous les autres, Vincent Tirel. Donc, on ne peut pas se plaindre de ça, au contraire. Mais tu travailles en crew, ça met un peu de temps, il y a des procédures et puis tu ne peux pas aller, t'en parlais tout à l'heure, tu ne vas pas tourner dans le métro à l'arrache, tu vois, quand tu es chez Golden. Tu fais pas les trucs à l'arrache. Parfois, ça fait du bien de refaire les trucs comme quand on avait 16 ans et demi, quoi.
Et une fois que vous vous êtes lancé, vous avez décidé dès le départ de publier une vidéo chaque dimanche?
Ouais. En fait, le DAB nous a mis la puce à l'oreille. Et ensuite, on a discuté sérieusement de dire, putain, est-ce qu'on part de Golden? On est directeur artistique, on est bien, c'est cool Golden. Est-ce qu'on prend ce risque? C'était vraiment un risque à prendre.
Vous aviez parce que vous aviez du coup un niveau de vie confortable, etc.?
Ouais. Voilà, bien quoi, tu vois, qu'on n'avait jamais eu, donc on était là, oh, c'est trop bien, et puis on peut nourrir nos familles en faisant du Golden, c'est quand même cool comme vie. Mais on a réfléchi, et puis, parce que c'était un gros risque à prendre. Là, on parle, on a 3 millions, et nous, on est très contents. Mais mec, on n'avait aucune idée. On s'est dit, bien, on va parodier les challenges. À l'époque, c'était beaucoup ça, les gens qui font des challenges.
Les ice bucket challenges,
les trucs comme ça. Exactement. Putain, qu'est-ce qu'on en savait que ça allait, tu vois? Donc, on l'a fait.
Vous en avez parlé autour de vous, d'abord, de cette décision?
Non, entre nous.
C'est entre vous?
Ouais, mec, t'imagines, tu dis ça. Ouais, on n'en a pas parlé, on a foncé, quoi.
Même pas en famille, vous n'avez pas.
La famille! Tu connais pas ma famille, toi. Ma mère m'aurait soutenu.
Ah non, je parlais plus de ta femme ou de.
Ah, mais mec, ma femme, c'est ma femme. Tu te doutes bien que si c'est ma femme, elle fait OK, elle fonce, mec.
D'accord.
Tu te doutes, ça fait 7 ans, on a 2 enfants. C'est pas le genre de meuf à dire, t'es sûr, mec. Elle me supporte entre guillemets depuis 7 ans. Elle voit mes gags, elle me voit courir dans des buissons, arriver nue à la maison. Elle s'en fout de ça. Elle est OK tout le temps. C'est voilà. Mais non, on a foncé, ça s'est bien passé et on s'est dit bien toutes les semaines. Ah si, un truc important. Putain, j'arrête pas de parler.
Mais non, c'est normal, mec, t'es sur un podcast. Il faut que tu parles plus.
C'est Pierre Cross qui... il est très visionnaire, franchement. Pensez ce que vous voulez de ses vidéos. Mais en tout cas... mais l'humain... l'humain est chambé. Pierre, il est trop... Humainement, c'est vraiment une perle. Et il nous a dit, les mecs, vous êtes fous de pas faire de pas repartir en duo. Refaites ça, vraiment. Vous savez quoi? Je vous écris tous les jours à partir de maintenant, jusqu'à ce que vous relanciez votre chaîne YouTube. Et il l'a vraiment fait, ce salopard.
Il vous a écrit tous les jours?
Franchement, déjà, je l'aimais beaucoup, mais là, je le respecte à fond pour ça. Il nous a écrit tous les jours, mec, sous une forme différente, un texto agressif, gentil, drôle, une contrepétrie. Et puis, c'était comme du harcèlement positif, hein, ce qu'il faut pas le retenir, ça n'existe pas. Mais dans ce cadre-là, ça marche. Et au bout d'un moment, il s'est dit, putain, mais mec, il a raison. Faisons-le, tu vois.
Ah, mais si, ça peut être une bonne idée quand tu connais quelqu'un, tu penses qu'il devrait absolument faire un truc, de faire ce genre de...
Totalement.
De mettre ce genre de système en place, quoi.
Bah, exactement. C'est une manière de soutenir absolument ses proches, tu vois. Mais ce truc-là marche bien.
Et vous, c'est ça qui vous a donné le coup de boost, de vous dire, allez, on le tente?
Ça a été un des éléments déclencheurs à 41%.
Il fallait quitter Golden Moustache pour faire ça? Vous pouviez pas faire les deux un peu en même temps?
Il a fallu quitter Golden pour publier tous les dimanches, ça c'est sûr.
Ouais.
On n'allait pas. On s'applique un peu, mine de rien, quand tu fais une parodie et que tu déconnes, c'est pas juste tu publies, t'en vas les couilles. Il faut s'appliquer, trouver les idées. Le montage, très important pour nous, ça prend du temps. Pendant une période, ça s'est cannibalisé, c'était le bordel, mec. On faisait Golden plus notre chaîne qu'on lançait, plus la famille, comme tu le sais, on s'en occupe à fond. Ah, c'était complètement dingue.
Et c'est vous qui faisiez. Tout sur votre chaîne audio au début, enfin, montage,
tout, pendant des mois et des mois. De toute façon, c'est comme à l'époque du Fat Show, on faisait tout, enfin tout. On a nos équipes, bien sûr, mais là, en l'occurrence, oui, on tournait, on montait, mais c'était usant et c'est pas du tout la meilleure méthode.
Ouais, vous avez dû bien fatiguer.
On a fatigué, mais plus tard, on est rentré chez Webedia. Quand on a rencontré des mecs comme Lucas, Squeezie ou Amixem, qui avaient des monteurs à plein temps, on s'est dit, mais putain, ouais. Et les mecs nous disaient, mais vous êtes fous, prenez des monteurs, des monteuses, enfin.
Ouais, pour pouvoir vous concentrer sur le truc où vous apportez le plus de valeur, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Et puis surtout, si tu décides de publier hebdomadairement, tu peux pas te foutre de la gueule des gens et faire un petit truc à l'arrache. Si tu veux faire un truc monté qui a un peu de la gueule, tu vois, dans la prise de vue, dans le rythme, le mieux c'est de prendre quelqu'un.
Tu veux dire que la qualité, y a pas que la quantité qui compte dans le fait que vous ayez que votre chaîne a eu du succès, quoi. Parce qu'il y a eu un facteur quantité du fait que ça sorte régulièrement tous les dimanches pendant longtemps.
Le rendez-vous, ouais, c'est un truc trop bien. C'est un truc trop important. Ouais. Mais nous, on a été élevés à la radio et au Fat Show, qui était une émission qu'on avait. Donc, c'était que des rendez-vous. On trouve ça trop bien pour les gens. Et ils nous l'ont bien rendu, genre. Putain, vous êtes notre encart du dimanche.
Ouais, ça crée une habitude.
Mais ouais. Et puis, on remplaçait la messe. C'était un peu notre gimmick et tout. Mais effectivement, la quantité ne devait pas bouffer la qualité. Donc, ça, c'est aux gens de le dire. Mais on essayait à chaque fois de créer des trucs nouveaux, tu vois. Même si parfois, il y a eu des formats comme Le Meilleur Jeu en Voiture, dont il y a eu 8 épisodes ou quoi. Mais faut que ce soit un peu innovant à chaque fois.
Ah, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Le Meilleur Jeu en Voiture avec Flaubert.
Ouais,
comme ça.
C'est possible.
mais c'était important, donc, du coup, quand même, au début. Je veux dire, est-ce que c'était pas important au début que ce soit vous qui fassiez tout pour les premiers épisodes, tu vois?
Ouais, et puis même,
c'est
important
si vous
de.
Commencer avec. Ouais, vas-y.
Ouais, c'était important de se retrouver avec David. C'est quand même mon meilleur pote depuis longtemps. Et c'est juste faire des dabs, parodier des challenges, refaire des chansons pas bêtes, mais simples, tu vois. Ça nous a fait trop du bien, tout simplement. Et donc, oui, on s'en est occupé, mais...
Tu dis se retrouver parce que vous étiez...
Chez Golden, un peu moins, ouais. On était directeur artistique de la chaîne YouTube et tout, mais malgré tout, on se voyait moins, on se voyait pas tous les jours et tout, ce qui était pas plus mal, hein. On n'est pas obligé de se voir tout le temps, parfois, il faut faire attention. Mais on se voyait moins, et puis ça nous manquait de faire des gags simples et instinctifs, tu vois. C'est ça qui nous manquait.
Vous êtes revenu, c'est l'état d'esprit que vous aviez quand vous avez commencé?
Ouais, c'est un peu ça. C'est l'état d'esprit qu'on avait au Fat Show ou à la radio. Donc on est revenu un peu aux sources. Ouais.
C'était vous êtes rencontrés, vous avez quoi?
Ça va toi?
Pourquoi?
Parce que je suis trop sérieux, j'ai besoin de digresser un peu. Comment tu
ouais,
vas?
Ça va très bien moi. Bah écoute,
est-ce que tu as fait l'amour récemment?
Excellent.
Ce silence.
Oui, absolument.
Non, t'as beaucoup trop réfléchi.
Bah ouais, mais parce qu'il se passe trop de choses en ce moment. Okay. Absolument.
Demande-moi si j'ai fait l'amour récemment.
Est-ce que tu as fait l'amour
récemment? Oui, et pourtant, ça fait 7 ans que je suis avec ma meuf.
Et bah c'est bien ça, non?
Voilà, t'imagines, c'est fou.
J'ai remarqué un truc, c'est que t'arrives à maintenir des relations d'une stabilité assez impressionnante.
Ouais.
Que ce soit avec ton pote, avec ta femme.
Oui, c'est pas faux.
Qu'est-ce qui fait ça, selon toi?
T'as vu que j'ai réussi.
Inversion de la.
Non, mais j'ai réussi à te digresser la gueule.
Mais t'as le droit de me digresser. En fait, c'est vraiment...
Je suis insupportable, alors qu'on parlait d'un sujet très bien.
Ouais, mais on va y revenir.
Ok.
En fait, on a le temps.
Oui.
Tu m'as dit qu'on avait le temps.
Oui, oui, nickel, mec, ça y est, je suis en repos, là.
Bah, très bien, écoute. Eh ben, donc...
Ok, c'est...
Non, parce que tu vois, moi, je vais réussir à tout moment à retourner l'interview.
J'aimerais bien voir si t'arrives à retourner sur le sujet qu'on était en train de traiter. Ça m'impressionne beaucoup, tu sais, dans les conférences, comme dans les TED, par exemple, où les vrais orateurs, ils te disent, premier point, et plus tard, deuxième point. Et parfois, les mecs se perdent, t'as pas remarqué? Ou comme les politiques, c'est ceux qui se perdent le plus.
Ouais.
Mais par contre, il y en a qui arrivent à retrouver leur point vraiment quand la structure... Ou les stand-uppers. Et Dave Chappelle, il fait ça très bien. Genre, il t'explique des trucs, il y revient, et le public est bouche bée. Ça, c'est classe. On verra si t'arrives à retrouver les sujets.
Alors, je préfère te le dire dès le départ, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que dans chaque interview, je me dis, attends, je retiens, je vais retourner ensuite. Et après, la personne me dit, on parlait de quoi déjà? Je fais...
Et encore, là, je suis pas avec McFly.
Sans transition.
Mais sur la digression, on peut être... insupportable, mais en même temps c'est cool aussi.
Mais c'est bien, c'est ce qui fait que les épisodes de Nouvelle École sont intéressants aussi.
Ouais.
Je pense c'est que on digresse un peu, et puis c'est ce qui fait que vos vidéos sont marrantes aussi.
Oui, digresser, c'est ouais.
Si on vous voyait que faire des blagues qui ont l'air scriptées, écrites, ce serait
oui.
Moi, ce qui me fait le plus rire dans vos vidéos, finalement, c'est donc là je regardais YouTube Warrior. Vous faites le parcours,
ouais.
C'est hyper drôle.
Ouais.
Mais ce qui est trop marrant, c'est vos interactions qui sont pas écrites entre les.
Ouais. De toute façon, la spontanéité, l'impro et tout, c'est vrai que c'est on peut pas tout miser là-dessus, mais c'est.
À la spontanéité, c'est
un kiff.
Et donc, qu'est-ce qu'on disait, bordel?
On s'est perdu là,
était
heureux.
On
était heureux, on était dans la spontanéité.
Repartons.
Ouais.
Je sais pas sur quoi je dois repartir. C'est terrible. Oui, vous étiez adolescent, vous avez commencé à faire des vidéos.
Ouais.
Et c'est un truc qui m'intéresse parce que vous êtes suivi d'ailleurs par plein d'adolescents sur McFly et Carlito.
C'est vrai.
Tu étais quel genre d'adolescent, toi, Carlito?
Je portais des pantacourts. Tu vois ce que c'est?
Ah bah oui.
Avec des Osiris.
Ça m'en dit pas mal déjà.
Et je collectionnais tous les Sugar Magazine. Je collectionnais tous les Sugar Magazine. Tu vas monter le podcast, tu le montes?
Non.
Quand on s'abonne, tu le gardes?
Ouais.
Il n'y a pas de souci.
Sinon, je peux monter ce que tu veux que je monte.
T'es fou, mais je t'ai dit rien du tout.
Okay.
La liberté d'expression, mec.
Allez.
Si on se lance dans un sujet qui craint, on développe, tu vois. On s'organise.
Ouais, il faut.
On ne se censure pas.
Non.
Ouais. Non, et j'écoutais OUFM, Guérilla Radio, Le Monde de Monsieur Fred. En fait, c'était rock, skate, l'amitié, les gags, ouais. Évidemment, les meufs me rendaient fou, mais j'avais vraiment aucun charisme à l'époque.
Ça marchait pas?
Je m'y aventurais peu. Si, ça allait, tu vois, mais c'était... Si, après, à 16 ans, j'ai eu ma première meuf. Si, c'était sérieux, tu vois. Mais avant ça, j'étais concentré uniquement sur faisons des gags qui dérangent les profs tout en gardant de bonnes notes. C'est vraiment notre passion, tu vois.
Avec McFly?
Lui... Je sais pas s'il avait des si bonnes notes que ça, mais entre autres avec McFly et les autres, t'imagines, c'était à l'époque l'acte le plus rebelle, c'est d'avoir quand même 13 de moyenne, ou 11 ou 12, on va pas se mentir, donc inattaquable d'un point de vue scolaire, mais quand même faire des choses pas possibles.
Comme quoi, comme chose?
Ah, il est là, il les veut. Bah, il y a des choses, les gens vont me juger, mais t'es un peu scatophile à l'époque. Mais en tout cas, la nuit, on rentrait dans notre bahut, ok? On en a fait une, de toute façon, ils peuvent plus m'attaquer, le lycée. On pourra dire que j'invente, ils n'ont pas de preuves. Me rentrer la nuit, je te mélange un peu exprès les anecdotes parce que je ne veux pas me faire retrouver, mais c'est un peu anachronique en vrai. Dans notre bahut, dans la cantine, dans la chambre froide pour voler toute la bouffe surgelée, c'est un exemple. Un truc trop cool qu'on a fait, c'est un concert sauvage. Genre avec mes potes David et très bons guitaristes et tous nos amis musiciens et tout. On s'est organisé pour amener des amplis, guitare, batterie. Et en plein milieu de la cour de samedi 10h, la récré, 10 ou 11, je sais plus, on s'est mis à jouer Pulp Fiction, tu sais. Double croche, Charlet, ça va vite, c'était chambé. Bon bref, genre de conneries un peu cool, tu vois. On se faisait livrer des pizzas en cours. On faisait tellement de choses, mec. J'ai annoncé un concert qu'on avait avec mon groupe de punk au micro du lycée. Ce qui est totalement interdit. Évidemment.
Si c'était, il était où ce micro?
C'est genre en fait, tu sais, t'avais pas la loge, tout le monde là, ça, la loge du. Pas de,
le CPE ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, un truc comme ça. et on a simulé une baston. Donc la meuf, la gardienne qui surveillait, qui était au poste principal, au QG, est allée s'occuper de la baston. Donc vraiment, vraiment un leurre, quoi.
Ah, vous avez créé une diversion.
Voilà, une diversion. et je suis allé au micro pour dire. Welcome to Woken Island, c'est le nom de mon groupe. Joue à la Seine-Bastille le 25. Eh, mec, c'était fou. Et c'est pas moi qui ai été viré, c'est mon pote Schneideps. Il s'est sacrifié, quoi.
Il a été viré quelques jours ou...
Ouais, quelques jours.
Et toi, t'arrivais justement à passer entre les balles?
Ouais, j'étais, pour te répondre à ta question, le genre de petit salopard qui passait entre.
Du coup, tes parents n'ont pas parlé, quoi.
Non, mais je t'ai dit, ma mère est trop cool. Non, sauf le jour où j'ai fait un coma éthylique, là, elle était pas cool.
Pourquoi t'as fait un trop bu
Bah ouais, hein, vraiment, là, j'avais trop bu, j'avais 20 ans.
T'as fait un coma éthylique à 20 ans?
Cette phrase.
Ouais, normalement, c'est genre.
Ce titre YouTube. Ce titre putaclic. Il a fait un coma éthylique à 20 ans. Mec, écoute, on faisait une très bonne soirée avec les gars au resto chinois, buffet à volonté. On se bourre la gueule au rosé qui est mauvais, n'en déplaise à ce restaurant. C'était un mauvais rosé. C'est pas le rosé de Draguignan. Et les mecs nous appellent pour nous dire, il y a une autre soirée. Et ça, c'est très dangereux. Et ça m'est arrivé récemment aussi où j'avais l'anniversaire de Kian qu'aujourd'hui. Et ensuite, mon anniversaire le 30 août. Double soirée, c'est fatal.
T'avais double anniversaire le même soir?
Ouais, en gros.
Dont
ouais.
Le tien?
Ouais. Okay. Là, récemment, ouais. Là, je suis là, ouais. Putain, je me suis mis cher. Et ne faites pas ça chez vous. Quoique toi, t'as un Audimat un peu plus mature, donc.
Oui.
Pas obligé de faire
des. Généralement, ils ont déjà bu un peu, hein.
Ok. Et non, ouais. Là, ma mère était vénère, mais sinon. Du moment, tu vois, si t'as des bonnes notes, je fumais pas, je faisais pas de conneries. Je faisais pas de conneries glauques, tu vois.
Et avec McFly, à quel moment vous avez commencé à vous dire on pourrait faire un truc ensemble?
Écoute, on s'est rencontrés. Maintenant, les gens commencent à la connaître parce que moi, je me mettais souvent en slip dans la cour. Donc là, c'est la première fois qu'il m'a vu. Ensuite, la deuxième fois, il squattait mon TPE d'histoire. Et moi, j'ai un super long prépuce. Et je glissais des objets dans mon prépuce. C'est ce qui faisait rire. Même encore récemment, aux réunions Golden, je me rappelle très bien Justine et Léonore Cos qui me voyaient avec des trucs dans le gland. Enfin, dans le prépuce, pas dans le gland, bien sûr. Et j'avais mis une gobe Maped. Donc, je vous laisse voir la taille d'une gomme Maped.
C'est très long, c'est très long.
Tu sais, c'est, parce qu'il y en a des blanches simples et il y a les roses bleues. Tu les vois, celles-là?
Je vois très bien les roses bleues.
C'est
celles qui sont censées effacer le stylo bille.
Censé, tu le dis
pas.
Bien, censé. Évidemment que ça marche pas. Mais c'est pas grave, ça a son charme marketing. Ça. Et je le mettais dans mon prépuce et là, Vida et David s'est dit, OK, on va être potes. Et en parallèle, moi, envers lui, de mon point de vue, c'était un putain de guitariste. Il avait un style aussi attirant que dégueu, c'est-à-dire des cheveux très longs et des fringues trop amples. Et en fait, il avait un super groupe de métal, donc c'était très impressionnant, avec un très bon batteur et tout. Et ça m'a beaucoup attiré, on s'est rencontrés là-dessus.
Et vous vous êtes dit à un moment, toi, tu pensais faire une carrière normale ou tu pensais partir dans les trucs créatifs, artistiques
Écoute, franchement, mec, quand on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Il y a un truc qu'on s'est dit très tôt, ceci dit, pour te répondre, c'est qu'on s'est dit, on lâche pas, en fait, on aime faire ça. Donc on se jette dans les buissons, on fait de la musique, on fait des concerts sauvages. Ok, bah. Faisons ça, en fait, tout le temps, tu vois. C'est pas possible. On avait, même si l'école, je veux pas juger l'école, j'aime beaucoup l'école, mais un très mauvais programme là-dessus nous apprend pas à devenir ce qu'on veut être, tu vois. On avait quand même des modèles. Tu vois, il y avait Michael Youn, les Robin des Bois, les Jackass. On s'est dit, mais ces mecs sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. On va pas, tu vois.
Ah, vous voyez déjà la possibilité d'avoir une vie comme
bah
ça.
Ouais,
quoi.
Mais on l'exprimait mal parce que c'était flou, c'était genre un média, tu vois. C'était pas nos darons, même s'ils sont charmés, ou l'école qui nous disait, oui, vous pouvez être humoriste, musicien, chanteur, tu vois. Mais on le devinait que ça existait, tu vois, ce potentiel.
Et vous essayiez de choper des trucs officiels, un peu des boulots officiels à tous les deux. C'est qu'à un moment, vous avez une émission sur le Move.
En fait, ouais, voilà, exactement. À 18 ans, on a eu une émission sur le Move. Pour le coup, c'est le seul truc où mon père... il est fou, ce podcast. Il est fou. J'arrive pas à dire podcast, mais il est fou, ce podcast.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, je prends du plaisir.
Bah ouais,
est-ce que
mieux.
Toi, tu prends du plaisir?
Bah, à fond.
Et mon daron, on était pas très proches, mais par contre... Il y a eu plusieurs phases cool qui m'a apprises sur le foot, sur le rock et sur la radio. Il faisait de la radio et il m'a dit le Move, qui était vraiment une radio rock, la radio rock à l'époque, m'a dit recherche des animateurs. Et il me dit, je te donne cette info. Tu vois, il m'a juste dit ça. Et moi, j'avais rien, aucune expérience. C'est juste que j'adorais le rock plus que tout au monde, tu vois. Et je cherchais un binôme. Je me suis dit, viens McFly, on essaye un truc. On a l'info. Les gens n'ont pas l'info, tu vois. On a l'info, tentons.
Et tu savais déjà, t'avais déjà contacté des boîtes pour essayer de proposer ta candidature?
Alors attends, parce que là, je te parle du Move, c'est-à-dire que nous, David avait du matos son, donc on a fait une maquette qui était mauvaise, et le directeur nous a dit non, Mais par contre, non, vraiment pas de rythme, pas drôle. Vous êtes fous. On inventait des personnages. Il y avait un personnage qui s'appelle Poil de Croûte. Donc le mec disait vraiment ça.
Vous avez encore cette émission?
Hein, on a des extraits quelque part, ouais.
Ouais.
Faudrait qu'on te les retrouve si tu.
Absolument, c'est très bien.
On peut te retrouver la démo non acceptée du de la Metal Academy. Et mec, quand tu l'écoutes vraiment pour le coup, moi je regrette rien et je regrette pas du coup. Mais le manque de rythme et tout. Moi, je peux pas charrier les gens de 16 ans qui nous envoient des vidéos sans rythme, puisque nous, c'est exactement pareil.
Ouais, là, c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Ça veut dire que forcément, au départ, tu fais un truc qui est pas fou, quoi.
Mais j'imagine, je pense pas que Sacha Baron Cohen, il était. Si, et lui, bon, lui, c'est pas un bon exemple. Il devait être génial à 15 ans déjà, mais tu commences quelque part. C'est comme les Robins au début, tu vois. C'est pas au tout début. Hein. Je parle des scènes de théâtre avec Isabelle Nanty et tout. C'est un poil mou, c'est génial, mais voilà.
Moi, j'avais un bon exemple là-dessus, c'est quand j'étais ado, j'étais fan de, bon, allez, à qui je mens, je suis encore fan, de Blink 182.
Bien sûr, moi aussi, grand
et
fan.
Allez, génial.
Ouais, évidemment.
Tom DeLonge et tout.
Bien sûr.
Et leur premier album ou leur première démo,
ouais, vas-y.
C'était une catastrophe.
Écoute, tu parles de avant qu'il y ait Travis à la batterie.
Ouais, je parle de, alors il y a une démo qui s'appelle Bouddha et il y en a un album qui s'appelle Cheshire Cat.
Voilà, Cheshire Cat. Non, mais parce que, et tu parles des titres genre Carousel, M&M,
alors,
et tout.
Mais ça, je les aime bien, ces titres-là.
Non, mais je les adore.
Mais c'est quand même. C'est cata, quoi.
Voilà.
Mais que ce soit au niveau du son, au niveau de l'écriture de la chanson, des refrains et tout, tout est nul.
Écoute, on est complètement d'accord, mais en même temps, tu ressens un peu quelque chose.
Ouais, tu ressens quelque chose. Mais justement, mais je me dis, et c'est toujours un exemple que j'ai gardé, et un pote m'en parlait beaucoup, il me disait, quand chaque fois que je commençais un truc, je disais, putain, mais c'est nul là ce que j'ai fait. Il me disait, non, mais pense à Blink.
Regarde, c'est bien, c'est très
c'est
bien.
Un très bon exemple, tu
bien
vois.
Sûr.
Parce que les mecs à la presse, c'est devenu les plus grosses stars. Bref.
Non, mais chacun a sa méthode. Soit tu penses à tes référents et tu dis, à tes références et tu dis, eux aussi au début, voilà. Et nous, en tout cas, c'est juste qu'on avait un excès de confiance, tu vois. On disait, non, ça va le faire, tu vois. On a poussé jusqu'au bout.
Et alors, donc, vous avez refait des prises, du coup?
On a refait. En fait, le directeur nous a dit, c'est mauvais, mais vous allez aller avec Muriel Pérez. Je lui lâche une grosse dédicace qui va vous aider à devenir bon, car vous êtes mauvais. Et c'était
sympa.
Un peu notre, tu vois, Pygmalion. Ça existe au féminin, Pygmalion?
Je sais pas ce que ça veut dire, Pygmalion.
Pygmalion, c'est comme quelqu'un, c'est comme un parrain spirituel, quelqu'un qui prend sous son aile, tu vois.
Ok.
Et mais c'est hyper important.
Une marraine un peu, quoi.
Voilà. Et elle nous a entraînés, elle nous a appris à mieux écrire, à mieux parler et tout.
Attends, c'est trop fait... sympa, elle a fait ça
ouais.
Parce que le boss avait bien
aimé. Oui, mais elle travaillait chez Radio France et parce que le boss lui a dit, tu devrais, si t'as envie, fais-le, aide-les. Et puis on s'est bien entendu.
Okay.
Elle écoutait à fond du rock et tout. On picolait un peu ensemble de ce qu'on picolait à l'époque. C'était trop marrant, tu vois. Et en même temps, elle nous a appris des choses. C'est vraiment la tortue géniale pour nous. Cette analogie fonctionne, je crois. et voilà. Et grâce à elle, on a réussi à se faire accepter notre maquette. Donc d'un côté, il y avait le move. Et après, en sortant de nos écoles après le bac, on s'est dit, on va fonder notre société de prod, tu vois.
Comme... Ah ouais, carrément.
Ouais.
Direct, la boîte de prod.
Après, ouais, on a fait deux ans d'école.
Est-ce que l'expérience de ton père t'a aidé un peu à pas griller les étapes, mais à savoir qu'il fallait, par exemple, monter sa boîte de prod?
Pas du tout. Franchement, je veux pas casser du sucre. J'apprends à être cool avec lui maintenant. Mais je t'ai donné les trois éléments qui m'a vraiment appris. Hein. Mais attends, le foot, le rock, la radio et tout, c'est des vrais trucs. En fait, quand je le voyais, il me l'a pas vraiment transmis concrètement. Mais quand je le voyais, je me disais, mais il fait de la radio, il est auteur, ça existe donc, tu vois. Donc là, il y a
donc
quand même. Il
avait une sorte de lumière au bout du tunnel.
Voilà,
quoi.
Exactement. Il s'est jamais posé à la table. T'as pas besoin forcément de te poser à une table et de dire, voilà ce que tu peux faire. Mais j'observais son exemple quelque part quand même.
Ouais, parce que parfois, c'est cette connexion qui est importante. Ouais. Je pense que, enfin, là où j'ai grandi, je dirais, elle y est pas. Tu vois, tu te dis pas, quand tu vois les gens à la télé, tu vois, je sais pas, Michael Youn à la télé,
ouais.
Tu te dis pas, ah, je peux faire comme Michael Youn. Tu te dis, ah, Michael Youn, il est à la télé, mais c'est parce que c'est Michael Youn, tu vois.
Exactement.
Et du coup, tu te dis jamais, mais moi, en fait, je peux faire pareil.
Mais mec, c'est trop important. C'est une des clés, je pense, c'est qu'il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas. Enfin, toi, si tu me dis que t'as grandi à la campagne, tu vois, putain, mais ça devrait pas être une distance. Ça n'existe pas. Moi, je veux trop qu'on dise ça aux jeunes, là, tu vois, je dis pas qu'on a tout réussi, tout, mais là, ça se passe bien pour nous. On leur dit, mais. La distance, elle est symbolique, elle est genre métaphysique, ça n'existe pas. Il l'a fait pour... Tout le monde peut le faire. Blink, les albums du début, mais mec, c'est chaud. Leur batteur, c'est... Bon, en l'occurrence, c'était plus leur batteur après, mais Tom DeLonge, il chantait mal.
Tellement mal. Mais il chante toujours mal, hein.
Il chante toujours mal.
En plus, maintenant, il est devenu fan des théories conspirationnistes.
Ouais, t'as vu son délire, là. Ouais, j'ai arrêté de le suivre sur Insta. C'était...
J'ai vu que t'avais arrêté de le suivre.
Ouais.
Parce que
là, t'as vu.
En fait, j'ai vu. Parce que ça fait un moment qu'on était censé venir sur Nouvelle École. Et du coup, j'avais vu dans tes following que tu suivais ce Tom DeLonge. Je me suis dit, ah, cool. Et là, aujourd'hui, je me disais, est-ce que je suis sûr vraiment? Parce que j'allais le sortir.
Ouais.
Et du coup, j'ai vérifié. J'ai fait, ah, il le suit pas, en fait.
Écoute, c'est compliqué. C'est que.
C'est un peu un scammer. Il est passé sur le podcast de Joe Rogan.
Ah ouais?
Et Joe Rogan, ensuite, arrivait plus à écouter des balivernes.
Oui, mais après, tu peux respecter. C'est juste que c'est too much. En fait, c'est le ratio vis-à-vis de. Tout le monde le suit parce que il a eu des groupes chambés et que c'était un vrai artiste. Et là, c'est trop d'un autre côté qui nous intéresse pas. Genre, Jim Carrey, c'est un gros exemple en ce moment, mais qui se joue en ce moment. Genre, plus grand génie, genre, tu vois, ces mecs, ils font de l'unanimité. Et moi, je l'aime plus que tout. Et là, ces derniers temps, il part dans des trucs, j'essaye de pas juger, mais très spirituel et tout. En fait, je veux pas le juger, mais ça m'intéresse moins, ok? Et ses peintures, je trouve ça cool, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Et moi, il me manque. C'est le mec que je trouve le plus drôle au monde. Et que ce soit sur scène avant ou dans ses films et tout. Et genre, je le suis et je me dis, ok, c'est cool, ses peintures. Ah, ok, spiritualité, développement personnel. Il n'y a pas de souci, je respecte à fond. Mais vraiment, tu me manques. Tu vois,
ouais, mais
je me
dis, terrible pour lui parce que sans doute il veut plus être Jim Carrey comme avant.
Exactement,
quoi.
Non, mais voilà. Après,
comme peut-être toi, un jour tu voudrais plus être Carlito.
Peut-être,
quoi.
Mais en plus, je t'ai dit, je suis pas du tout dans le jugement. Je suis dans peut-être que. En l'occurrence, Jim Carrey, je suis en train de voir. Il faut que je regarde son documentaire sur Netflix, tu vois. McFly, il me l'a conseillé.
Mais, ah ouais, super.
Voilà, ok. Mais Tom DeLonge, j'ai fait mon choix. Je dis, mec, non. Là, t'es chiant. En gros, t'es trop chiant.
Mais on parlait, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis de dire qu'il n'y a pas de distance. Mais je sais même pas si dire ça suffit parce que j'ai l'impression de le dire toute la journée. Et en fait, moi, on me l'a dit aussi. J'ai lu plein de bouquins en plus de développement personnel, ouais. Ces trucs-là où ça dit ça finalement.
Oui.
Et qu'est-ce qui a tout changé pour moi? Je crois que c'est ce podcast en fait.
Bah, trop bien.
C'est plus j'ai rencontré des gens, plus j'ai fait, ah ouais, mais en fait, tu vois, peut-être que si je t'avais interviewé il y a un an, j'aurais été hyper stressé avant que t'arrives.
Oui.
Je me serais dit, oh là là, c'est Carlito, il est hyper connu et tout, tu vois. Vraiment. Et maintenant, t'arrives et. Mais tu vois, ça va quoi.
Non, mais je comprends.
C'est un mec quoi, tu vois.
Ça y est, parce que t'es dedans et que t'apprends et tout. Mais franchement, mec.
Mais tu vois, ce qui est difficile, c'est de. Parce que moi, du coup, je le vis, donc ça change en moi. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à l'expliquer. Je sais pas si tu peux l'expliquer ou peut-être.
Mais par contre, pour corroborer, c'est juste que YouTube, je pense, c'est une bonne passerelle pour les jeunes pour ça. C'est aussi un peu un piège parfois parce que. Ça te fait croire que c'est facile d'être vidéaste et tout, alors qu'il faut pas oublier de créer et d'envoyer un message, tu vois. Mais ceci dit, on est plus jeune et on répond aux gens et on les croise dans la rue d'une manière que ça a jamais été comme ça, je pense, tu vois. Hyper disponible, hyper, les gens ils s'identifient vachement. Peut-être que c'est plus facile maintenant pour les gens de se dire, ok, on peut devenir, on peut faire ce qu'on kiffe.
Mais est-ce qu'il y a pas quand même une distance qui se crée dans le sens où si je regarde McFly et Carlito ou Squeezie? Je vais avoir l'impression que vous êtes un peu en mode artisanal, que vous mais en fait, en même temps, c'est quand même hyper bien fait, tu vois, parce qu'il ouais. commence à y avoir des équipes autour, du montage, etc. Et puis ça charbonne, quoi. Ça sort Squeezie, je sais pas combien de fois ça sort par semaine.
Ouais, mais... Il a calmé le jeu en plus, mais Squeezie. Alors j'ai deux réponses à t'apporter. Je vais essayer de pas oublier. Concernant Lucas, Squeezie, il s'organise de ouf. Ça a l'air facile. En fait, si tu dis ça a l'air facile, c'est positif, c'est bien. Mais il prend sa thune pour payer un monteur. Tu vois, ou deux, à plein temps, tu vois, le mec, il fait vivre des gens, il s'organise très, très bien. C'est Lucas, il me fait trop rire. Il est très jeune, il a l'air fou, et son orga, elle est rigoureuse au poil.
Mais justement, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça peut pas, est-ce qu'il n'y a pas un côté pour les gens qui suivent, genre, ah, ça a l'air facile, et en fait, t'essayes, et forcément, tu fais un truc, bah, vite fait, parce que c'est ton ouais. premier truc, et tu te dis, mais en fait, non, je vais jamais y arriver parce qu'ils sont trop forts, tu vois.
Écoute, bah, trop fort, pareil, c'est pas à moi de le dire, mais par contre, le seul truc que je peux dire, c'est t'essayes, et tu réessayes. Franchement, ça doit être connu, tu vois, comme précepte. Mais moi, je suis à fond là-dedans. Réessayer, mais un nombre de fois incalculable. Écouter les gens, mais pas trop, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais avec mon pote. Donc, ça veut dire, on se disait, putain, mais ça, c'est pas drôle. Ça, c'est drôle. Là, les gens nous ont appuyé dessus. Là, moi, je t'ai trouvé mauvais. En gros, on pouvait se débriefer entre nous, tu vois. Et pour les gens qui sont solos, comme toi ou d'autres, ou bah, tu prends Lucas, je sais pas comment ils ont fait. Ils avaient une vraie détermination, ou alors t'as un entourage, ou alors t'écoutes aussi les gens qui te critiquent et tu fais la bonne analyse, mais il faut juste jamais lâcher, quoi.
C'était intéressant ce que tu disais, avoir un message. Ça veut dire quoi?
Ok, bah c'est...
Ok, j'entame une réponse.
On dirait MC. Ok, écoute-moi maintenant.
Ok, all right.
Mais mec, je suis comme... Je te jure, je suis chaud. Je suis chaud, là. En fait, c'est juste implicite ou explicite, peu importe. Genre, nous, des gens nous regardent. J'ai déjà eu des commentaires. Il faut vraiment pas se fier aux commentaires. Mais là, ça me permet juste de rebondir sur ce que tu dis. Ouais, ils ont
surtout quand tu deviens mainstream et que les commentaires, c'est dans tous les...
Oui. Mais oui, mais
je dis pas mainstream négativement.
Non, il y a aucun souci. C'est juste que parfois je les retiens. J'essaie de pas me morfondre, mais parfois je les retiens. Il y a un mec sur vraiment beaucoup de gens qui disait putain, il y a pas de message, tu vois, alors que tant d'autres disent le contraire. Mais lui, je l'ai retenu et je me suis dit, des gens peuvent se dire, ils font juste les cons. Il y a pas de message. Vous y voyez, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, mais en vrai, on essaie de véhiculer un truc hyper positif, hyper ouvert, de fond. On le dit pas. On ne dit pas aujourd'hui une vidéo sur laquelle on vous apprend à ne pas être con, à ne pas être raciste et homophobe. Mais on le véhicule discrètement. Chacun à sa manière le véhicule, tu vois. Squeezie, il fait du gaming, mais pas que, tu vois. Il fait d'autres vidéos maintenant, mais il véhicule quand même un truc hyper cool, un message hyper positif, tu vois. mais qui est discret, qui est dans une trame de fond.
Tu veux dire que l'important, c'est d'avoir... en gros, vous avez quelque chose à dire, mais est-ce que vous n'avez pas juste quelque chose à dire parce que vous essayez d'être le plus naturel possible?
Nous, en l'occurrence, nous, ça doit être ça le truc, je pense, tu vois. On a quelque chose à dire sur la spontanéité, l'amitié, l'ouverture.
Parce que parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'ai rien à dire. » Et moi, j'ai toujours l'impression que si tu arrives à te montrer vraiment comme t'es, en fait, c'est pas que tu vas dire quelque chose de nouveau, parce que tout a été dit. On a déjà fait des blagues, on a déjà fait des chansons d'amour, on a déjà tout fait.
Ouais, ouais.
Mais si tu le fais avec ton expérience et ton prisme, bah, c'est forcément un tout petit peu nouveau, quoi. Ouais. Et donc, ça dit forcément quelque chose d'un tout petit peu différent.
Totalement. Le plus important, c'est de l'assumer, tu vois. À l'époque du Fat Show, on faisait des émissions qui étaient... Moi, c'est la meilleure chose au monde, pour moi. Mais c'était usant et on en faisait des caisses vraiment. Là, pour le coup, les gens auraient eu raison de dire, mais c'est... Il y en avait partout. Toutes les chroniques, tous les genres, tout, de tous les côtés. Là, maintenant, on a appris à plus assumer, à être plus nous-mêmes, plus spontané.
Il y a eu une vraie réflexion là-dessus ?
Une vraie réflexion latente. Pas un rendez-vous concret, mais ouais.
Vous vous êtes dit, il faut qu'on en fasse moins ou c'est...
Tranquille, fatiguons-nous moins, on est nous-mêmes. On commençait à déceler que des gens aimaient bien ça. Faisons ça. Faisons ce qu'on aime au plus simple, tu vois. Recevoir des gens pour faire des canulars comme on aime, tu vois, puisqu'on a fait de la radio et qu'on aime ça, c'est quand même le niveau le plus simple, tu vois.
Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur qu'on dise ils font des trucs bidons ou, tu sais, genre des blagues à la con, etc.?
Bah, blagues à la con, il y a des gens qui le disent, tu vois. Moi, j'assume. Parfois, on est fiers des blagues un peu plus fines. Parfois, c'est un peu plus con. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cette grande variété, tu vois. Je veux pas faire genre, on est l'élite et on fait de la fiction incroyablement géniale et rien d'autre, ce que je respecte. Nous, c'est ce qu'on est aussi. Franchement, parfois, on fait des blagues un peu con. C'est pas con, c'est plus simple, parfois plus adolescent, tu vois. Mais c'est quand même la spontanéité qui prime. D'aucuns pourraient dire, bah non, c'est trop débile. Et je respecte à fond. Si tu trouves ça trop débile pour toi, tu peux voir, il y a 12 000 autres, tu vois, youtubeurs et humoristes. Et les autres disent, ok, c'est cool, j'aime ça, tant mieux.
Ouais, parce que parfois, je trouve que c'est difficile de pas vouloir faire un truc élitiste parce qu'il y a quand même, il y a une pression de... Un peu comme quand tu fais de la musique.
Ouais.
Finalement, quand tu fais de la musique et puis quand tu fais des vidéos YouTube, bah, ça a peut-être vocation à toucher un plus grand public que si tu fais, je sais pas, des podcasts ou que si tu collectionnes les timbres, tu vois.
Ouais.
Et du coup, forcément, il y a une partie des gens qui vont être confrontés à ton art, disons, à ta création, qui vont pas aimer, tu vois. Et du coup, la tentation, je trouve, est grande quand t'entends les... En tout cas, la pression est grande de faire une sorte de truc un peu, tu sais, qui... Un peu, bah, du coup, un peu élitiste.
Ouais.
Qui prend moins de risques, en fait, tu vois. Dans la musique,
oui,
par exemple.
Oui, et pour plaire à ceux à qui,
voilà,
tu as déjà plu.
C'est ça.
C'est un vrai putain de débat, mec. Ça prendrait 2 heures de plus. C'est un débat technique de l'artiste, quoi, du créateur.
Ouais, mais c'est intéressant.
Ouais. Ben, franchement, nous, le naturel revient au galop. Parfois, moi, je crois pouvoir dire que je suis trop exigeant, mais pas dans le sens positif, trop chiant, à vouloir faire ce qu'on a décrit là. C'est-à-dire, faisons gaffe, tu vois. Essayons d'aller plus haut, plus loin, plus quali. Et McFly, souvent, il me dit, non, mec, viens. Ça nous a fait rire. Assumons, ça nous a fait rire d'appeler cette personne, ça nous a fait rire de, j'ai pas d'exemple de tête, mais tu vois, de faire des blind tests comme ça, des blind tests, mec. On fait des blind tests. Ok, faisons-le.
En fait, et... des blind tests en faisant des gargarismes avec des bouteilles d'eau.
Voilà, exactement, dans YouTube Warrior.
Ouais.
Et bah, c'est pas grave, c'est ce qui nous plaît, tu vois. Et on a eu aussi de la chance de rencontrer un public très tôt qui nous a beaucoup rassuré. Mine de rien, on dit ce qu'on veut, mais ça te rassure. Même s'il y a quelques personnes qui te chient dessus, si les autres te disent. Il y a une tonne de messages différents, tu vois. Mais il y en a qui te touchent au plus profond. Bah, tu peux pas les nier, tu peux pas dire, tu vois. Des gens qui te disent des trucs, bon, c'est intime, mais tu vois, qui disent, vous nous inspirez, merci, c'est trop marrant, ça me fait du bien. Ou plus loin encore, putain, j'ai le cancer, ma mère, elle est morte, j'ai l'impression que les mères décèdent toutes les 2 semaines en ce moment avec les messages que je reçois. Et vous me faites du bien? Mais mec, ok, bah, alors là, mec, c'est reparti pour 10 ans. Enfin, tu vois.
Est-ce qu'à un moment, le fait de sortir tout le dimanche, comme ça,
ouais,
avec une grosse régularité. T'as vu, je fais les mouvements en même temps.
Mec, je suis heureux. On dirait que j'ai pris de la drogue. Je peux pas je crois qu'il y a de la sérotonine ou de l'endorphine ou les deux qui se dégagent.
Non, c'est celle de. Ça doit être la sérotonine.
Ouais,
celle
de l'AMD, ça.
Ouais, c'est celle de l'AMD, ouais. Ouais, je t'ai entendu dire dans l'histoire de Daron que t'avais pris pas mal de drogue.
Ouais, mais la sérotonine, j'ai analysé. je crois que je le disais à Fabrice Laurent, mais si tu. Déjà, si t'as une très bonne humeur de base et si tu vas par exemple courir, tu vois, quelque chose qui te dégage beaucoup d'endorphine et tout. Et qu'après, tu manges, par exemple, du pamplemousse ou des bananes. Donc, en gros, tu fais un concours de circonstances qui t'apporte... Il y a de la sérotonine dans ces fruits, c'est pour ça. Tu peux retrouver...
Dans le pamplemousse et la banane ?
Ouais, dans la banane, surtout. Ouais, mais pas, tu vas pas manger une banane et être drogué, ça marche pas comme ça. Mais si tu réunis plusieurs causes naturelles, c'est que naturel, tout ça, c'est des hormones. Tu peux te retrouver... On l'a parfois. Parfois, quand t'es heureux, tu jubiles, comme si tu volais au-dessus du sol. Attends, mais de quoi on parlait avant ?
On parlait de...
Juste avant. je te disais, parce que j'ai refait
j'étais
un bilan.
Heureux dans ce podcast.
Oui, mais
la régularité.
Voilà.
Tous les dimanches. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où.
Bravo.
Où il y a le cerveau fatigue ou la créativité fatigue et vous vous êtes dit, est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous faites un break?
C'est exactement
ça. Le côté,
ça.
On n'arrive plus à avoir soit de nouvelles idées ou alors le fait de le faire vraiment spontanément.
En fait, c'est toujours pareil, c'est les discussions entre McFly et moi. Lui, il est bien plus détendu là-dessus. Moi, je suis plus genre, mec, faisons gaffe, faisons pas la même chose. Il dit, non, t'inquiète. Et là, quand ça arrive, évidemment, faut pas forcer. Nous, on détesterait ça, donc on prend des vacances. Aussi pour qu'il s'occupe de son enfant, bien sûr, mais... pour se requinquer, tu vois. Même en août, on va prendre le mois d'août. Ça peut paraître chelou parce que les gens en prennent. Mais on va prendre le mois d'août pour, pareil, il faut essayer d'être inspiré sans cesse, tu vois.
Ouais, parce que tu crois que la fréquence élevée t'oblige à... Il y a un côté un peu usine, mais même pour moi, tu vois, je le vois quand je sors un épisode par semaine. Ouais. Il y a un côté, je pense que des fois, enfin parfois...
Ouais. Bravo.
Il y a des épisodes dont je suis moins satisfait que d'autres, tu vois. Ouais. Mais je les sors quand même, parce que je me dis ce qui est important, c'est que ça sorte, c'est que ça continue, tu vois.
C'est le juste milieu, déjà, tu vas te créer une communauté. Donc quand t'es un artiste, à partir du moment où t'échanges, même c'est à partir d'une personne qui kiffe ton podcast, hein, c'est pas 10 000 ou 3 millions, une personne, y a un rapport, un dialogue. Les gens vont avoir envie de ça, donc toi tu vas te dire, ok, est-ce que là je vais leur donner un truc qui a de la gueule, ou est-ce que je fais le forceur, tu vois? On dit vraiment, nous dans YouTube, on parle beaucoup des forceurs. Ou ailleurs, je sais pas si
c'est quoi les forceurs, c'est les gens qui...
Vraiment, j'essaie de beaucoup moins critiquer dans ma vie.
Non, mais là, on critique
mais
pas,
malgré
on
tout,
analyse.
Mais on peut aussi de temps en temps. Je veux dire, il faut essayer de pas le faire, mais là, je vais le faire. C'est les gens qui publient souvent de la merde, ou en tout cas quelque chose de futile, ou en tout cas de peu créatif, ok, mais qui peut plaire à certains, juste pour publier, juste déjà pour la YouTube monnaie, parce qu'évidemment, quand elle arrive, elle fait plaisir, et juste pour dire je suis là, juste pour monter en abonné. En gros, c'est la première cause de leur publication, leur création vidéo, c'est des mauvaises raisons. Ça, c'est des forceurs, tu vois.
Et c'est quoi les mauvaises raisons? L'argent, le nombre d'abonnés sur
l'argent, quoi? L'argent est pas forcément une mauvaise raison quand c'est lié à d'autres trucs. C'est très cool de gagner de la thune en faisant ce que t'aimes. Mais disons plus la notoriété en premier lieu, tu vois. Genre l'argent, c'est un truc inhérent à la notoriété. Mais quand juste être présent, avoir des abonnés, être aimé est ta première raison, et que les autres créatives, intéressantes, tu vois, pédagogiques arrivent en dessous, loin en dessous, c'est que t'es un forceur. Surtout si tu publies 3 vidéos par semaine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
On disait un truc, non?
On a dit beaucoup de trucs.
Oui, on parlait de...
T'aimes ce podcast, ça va, t'es bien?
J'adore ce podcast, en plus. Mais ouais, je suis hyper content, tu sais.
Ouais. En fait, je crois que c'est ça. Je crois, maintenant que je commence à avoir fait des interviews et tout, je crois qu'en fait, la digression naturelle, ça veut dire que ça se passe bien.
Ouais, et c'est surtout que, en fait, moi, j'ai appris aussi un truc, c'est qu'au tout début de mon podcast, j'avais des grandes feuilles avec toutes les questions que je voulais poser.
Ouais.
Et en fait, ça faisait des trucs très... Tu sais, il y a vraiment un script, quoi. C'est scripté.
Ouais, mais là, t'as un petit carnet.
Petit carnet, mais en fait, t'as vu, je le regarde pas.
Oui, c'est vrai.
Et c'est juste au cas où j'ai un gros trou, je peux toujours trouver une question
bien
pour
sûr.
Repartir.
Là, t'as un trou, là.
Non, là, j'ai pas de trou.
Ok.
Parce que là, j'allais dire un truc. Okay. Et c'est donc que, peut-être comme dans vos vidéos, ou peut-être, en tout cas, moi, c'est toujours ce que j'aime dans les projets. Ce que je trouve de meilleur dans Nouvelle École, c'est jamais mes questions, c'est toujours les. C'est tout... Tiens, tu veux du mou sur
ouais,
le câble.
Je voulais du mou.
C'est toujours les digressions qu'il y a avec les invités, c'est toujours eux qui amènent les meilleurs morceaux. Moi, j'ai jamais pensé. Bah, d'ailleurs, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir enregistré la fin de la conversation avec Pénélope Bagieux, qui était trop bien, mais bref.
Mais ouais, faut toujours. Hey, tu sais que c'est pareil en vidéo. C'est parfois, tu coupes la caméra et tu pars en couille pendant 30 minutes et tu dis, mais ça, c'était trop bien. Faut toujours avoir.
Vous avez trouvé un système, du coup, vous laissez des trucs qui enregistrent tout le temps.
Les monteurs nous détestent, ou nous-mêmes, on se déteste quand c'est nous qui montons, puisque ça enregistre beaucoup. Mais c'est une de nos astuces.
Parce que je pense limite faire ça maintenant, c'est quand j'arrête l'interview, on pose le micro, mais je laisse le truc tourner. Et puis,
mais tellement, mec. Tellement.
Parce que la dernière fois, c'était... Et en fait, il y a beaucoup de moments de Nouvelle École qui sont pas dans Nouvelle École, qui sont trop bien.
Mais oui, où les gens placent des micros. Ouais. Placent des micros à chef.
Ouais, j'avoue.
Fais-le à Pascal Clark, sinon place des micros.
Ou j'arrive avec un micro-cravate.
Mais oui. Je te jure, faut tout capter.
Est-ce que quand, dans tout, disons, ton parcours artistique et créatif qui est passé par toutes tes étapes avec McFly, est-ce que, donc ton père, c'est Guy Carlier, qui a été l'animateur star de Marc-Olivier Fogiel à un moment, qui est quelqu'un de assez connu, quoi.
Ouais, à l'époque, très connu. Encore aujourd'hui, peut-être, je sais pas.
Et je pense que t'es la première personne à passer sur une nouvelle école dont un des parents était vraiment connu, tu vois.
Ok.
Et je me demandais, justement, je voulais te demander, quel effet ça a quand ton père est super connu et que t'essayes de, toi, d'avoir ta propre carrière ou ton propre projet dans des milieux qui sont finalement, c'est pas du tout le même milieu, mais t'essayais quand même de faire un truc créatif ou.
Ok. Ok, encore une fois, okay. Ça c'est right. Quand one, je two. Rentre sur le ring de le ring oral, quoi. Écoute, c'est un gros truc important, moi, dans ma vie en tout cas, mais c'est à double tranchant. Il y a un truc qui est vis-à-vis de la célébrité des gens. Les gens savent pas gérer, mais moi je pense que ça devrait devenir une des matières à l'école. À l'école, il faut rajouter beaucoup plus de musique, beaucoup plus de cuisine et un truc sur le relationnel vraiment humain. La notoriété, on dirait que c'est un truc de ouf. Moi, une fois, j'ai vu Kezia Jones dans le métro, genre, c'est une de mes idoles. Et genre, je suis allé lui parler et mon père était déjà connu à l'époque. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois? Je pense qu'il faut savoir aborder les gens et aborder le sujet cool, tu vois? Je pense avoir bien fait, tu vois? J'ai fait un petit éloge très cool, très court. Mais en l'occurrence, c'était chiant, la notoriété de mon père. Parce que t'es le fils de Guy Carlier, je déteste cette phrase. Et comme je disais toujours, je suis le fils de Janine, les gars, c'est la meilleure daronne du monde. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? En quoi c'est plus stylé d'être allé chez Fogiel que d'avoir élevé un enfant seul, tu vois? Ah, les gars, vous êtes fous. En fait, la notoriété, c'était tellement symbolique, enfin, tu vois. Et, donc ça, c'était un peu dur à vivre. Genre, c'est toi, c'est ton daron. En plus, qui était surgros, mon gars, c'était vraiment pas cool.
Comment ça?
Bah, il était en obésité morbide, donc ça veut dire que tu te fais vanner en plus là-dessus, tu vois. Mais d'un autre côté, ça m'a déclenché.
Ça, ouais.
Ah ouais, t'as bien vu, tu vois pas qui c'est?
Ouais, si, j'ai vu les photos et tout, mais je me disais pas, je pensais, j'avais pas pensé, quoi, à cette.
T'avais pas, bah, ok, non, c'est visuel, mais c'est cool, c'est tant mieux. Et, lui, par contre, lui, en rigolait, donc ça me permettait, moi, d'être léger là-dessus, tu vois. C'était juste le combo, notoriété, plus gros, c'est plus toi, t'es le fils de, enfin, mec, non. Mais par contre, ça a aussi déclenché une envie, justement, que tu décrivais, de faire mon trou dans autre chose, tu vois. Mais malheureusement, il se trouve que c'est la radio que j'ai kiffé, sûrement par lui, et puis sûrement par le quand j'écoutais Le Monde de Monsieur Fred, tu vois, Fred Martin et son équipe, ça me faisait rêver, tu vois.
Ouais, puis même YouTube, c'est finalement un peu une évolution de la télé, dans un sens.
Bien sûr, évidemment, c'est bien sûr, c'est un média comme ça. Et du coup, non, ça m'a donné la niaque pour dire, non, je vais faire mon bise. Et à partir du moment où il m'avait dit, il y a une porte ouverte peut-être au Move. Après, on n'a plus jamais, mais c'était un accord entre nous. Hein. Il est vraiment intelligent, tu vois. Donc, c'est plus jamais, tu vois, comment dire, filet de coup de main ou, enfin, filet de coup de main, des conseils peut-être, mais tu vois, il n'a pas interféré.
Tu voulais éviter le côté, risque d'être perçu comme pistonné ou truc comme ça.
Ouais, bah, je l'ai déjà entendu. Franchement, mec, je m'en bats les reins.
C'est des critiques qu'on t'a fait, ça.
Je l'ai déjà entendu plein de fois et je laisse les gens observer, tu vois, c'est tout. Je leur raconte la vérité, de toute façon, ils me croient ou non. Mais évidemment que ça m'énerve un peu parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré David, on a fait notre bise, tu vois. Mais d'un autre côté, je devrais juste lâcher du lest et les gens pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Le mot pistonné, je le trouve dur. Franchement, mec, c'est comme tu prends Laura Smet ou tous les fils d'eux, tu vois, qui sont là pour le coup des gens très connus, tu vois. Tout ce qui compte, c'est est-ce que ce que font ces fils d'eux ou ces filles d'eux, c'est horrible cette expression, mais en l'occurrence, elle décrit bien ce dont on parle, mais... Est-ce que ces gens, ça vous plaît, ce qu'ils font, tu vois? Il y a que ça qui vaut, peu importe, tu vois. Thomas Dutronc, mais mec, c'est un monstre. C'est un monstre à la guitare et au chant. C'est tout ce qui compte. Bref. Donc ouais, et du coup, ça m'a donné la niaque de faire mon bise. Après, j'ai fondé ma boîte de prod, on a filmé des clips de métal, tu vois. Je me suis éloigné de tout ce qui pouvait être Guy Carlier, tu vois. Animer une émission de métal, bon, c'était quand même de la radio, mais quand j'étais beaucoup réalisateur, cadreur et tout, monteur. Je m'éloignais de tout ça, je voulais faire mon trou là-dedans, tu vois.
Et lui, du coup, il n'était pas du tout impliqué dans tes projets?
Non, mais c'est du respect, je te dis. Il est vraiment vraiment intelligent, donc il sait très bien. Il sait très bien que la notoriété, c'est quand même mal géré pour tout le monde. Franchement, les gens, ils pètent des plombs. Franchement, même vis-à-vis de nous, on en parlait, j'en parlais dans un autre podcast. J'adore, et les gens nous reconnaissent, et c'est grâce à eux qu'on est là. Mais parfois, c'est dingue. Enfin, on n'est pas les Beatles, tu vois. Et même à l'époque de la Beatles Mania, moi, je vois les images, mais je suis choqué.
C'est un truc de fou. Mais hein. Oui. Il y a un documentaire, tu sais, sur leurs années où ils faisaient des concerts qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, ce documentaire.
Et où tu voyais les meufs faire des malaises et tout.
Mais surtout dans le stade, à un moment, ils jouent dans un stade. Donc, j'ai oublié toutes les références, les puristes des Beatles, pardonnez-moi. Ouais. Ils jouent dans un stade qui est plein et tu les entends pas, en fait. Tu n'entends pas les instruments. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des concerts.
Ok, mais, bah, mec, c'est abusé, tu vois, et c'est abusé. Personne pourra dire c'est vraiment stylé de tomber dans les pommes et d'empêcher d'entendre Ringo Starr. Non. Et là, je veux dire, les gens nous viennent. Mais nous, c'est pas méchamment, tu vois. On a une forme. Comme on est un peu, tu vois, on a 30 ans, on est sur YouTube. Nous, on aime bien filer des petits tricks d'éducation, tu vois. Mais vraiment modeste. On se permet, tu vois, quand on a de l'influence. Et là, en l'occurrence, un des trucs, c'est si on est avec nos enfants ou au téléphone, mais criez pas, ne nous interrompez pas. On se checkera de toute manière. On vous adore, on prendra toutes les photos que vous voulez et tout, mais on se reverra, il n'y a pas de souci, on est accessible. Mais il y a une sorte de civisme, tu vois, de politesse qui ne change pas, que tu sois Kanye West ou le chef boucher du coin, tu vois, tranquille, tranquille.
Ouais, c'est ça dont tu parles quand tu dis qu'il faudrait apprendre à gérer la notoriété.
Ouais. En fait, tu sais quoi, il y a une échelle. À la limite, nous, c'est cool, parce que les gens sont cool. Les gens entre 12 et 25 ans, ils viennent, ils te checkent. À part deux, trois exemples, je te dis, où vraiment je suis en train de parler à mon fils d'une leçon de vie et j'entends non, ça c'est chiant, mais sinon 99% du temps c'est super cool, la communauté et tout. Je parle plus, tu sais, il y a celle de mon daron, la notoriété de mon daron, les gens un peu comme ça, tu sais, les gens ils viennent interrompre, ils viennent te parler comme si t'étais un objet, tu vois. Ah ouais, c'est toi, ouais. Et parfois les gens ils me disent, les gens les moins cool, ah c'est toi le youtubeur, ok, dis-moi quel est le contenu. Non mais voilà, bah, il paraît que t'es quelqu'un de connu, tu peux me signer un autographe. Putain.
Sérieux?
Ah, mais mec, de ouf. Mais demande à tout le monde, bien sûr. Demande à tous. Ils te diront cette anecdote.
Il sait pas qui t'es, il veut un autographe.
Il sait qu'il a entendu dire dans le resto ou le centre commercial que t'es. Ah, mais mec, ça, c'est vraiment
c'est
dégueulasse.
C'est délirant, ça.
Mais ouais. T'as envie de dire, mais t'aimes même pas ce que je fais. C'est nul et ça ne vaut rien. Et surtout, du coup, on signe un autographe qui n'a aucun sens, tu vois. Tu t'en mets les couilles, tu fais des blagues. Et ça, ouais, je pense qu'il faut, bien sûr. C'est comme, il y a un truc très important aussi. Les gens qui disent, ouais, c'est la rançon de la gloire et tout, tu sais, c'est la contrepartie du succès. Alors, vraiment, là, pour le coup, je suis radical, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est connu ou richissime, puisqu'il a joué dans des trucs, théâtre, machin, enfin tout, il est connu. Mais il n'a pas besoin d'avoir une contrepartie violente, ça n'existe pas. Il n'y a pas un karma de ta réussite, tu vois.
C'est pas comme si on lui avait fait un cadeau, quoi, je trouve.
Voilà, mais franchement, même si on lui avait fait un cadeau. C'est pas parce que t'as fait un cadeau que le mec t'es redevable. Enfin, ça devrait.
Tu vois vraiment, moi je vois vraiment des gens, leur vie a l'air d'être un cauchemar. Hein. Je reparlais de Eminem tout à l'heure là. Ouais. Pour le coup, ça a eu l'air vraiment compliqué pour lui quoi.
Bien sûr.
Sur n'importe quelle vidéo, même je voyais une vidéo la dernière fois. Je me suis perdu sur YouTube.
Ouais.
Je tombe sur Jean Dujardin doit sprinter pour éviter.
Ouais, j'ai vu ça. Tu l'avais en suggestion.
J'étais là-haut.
Bah ouais,
c'est compliqué quoi.
Franchement, mec, je pense pouvoir dire que c'est vraiment chiant et c'est une contrepartie de rien du tout. Le mec, il a. T'as fait, mais franchement, mec, même s'il avait pas travaillé, même s'il était pistonné à mort, rien ne vaut que, tu vois, que les gens te considèrent genre comme un objet rigolo, et comme t'as de la thune ou t'es chéri, on a le droit de t'embêter, t'es fou. C'est exactement la même personne, en fait. C'est juste que professionnellement, socialement, il s'est passé un truc. Mmh. Ça ne change rien. Tu vois.
Ouais, d'autant qu'il y a un côté oui mais il le doit à ses fans, mais en fait pas vraiment, parce que par exemple Dujardin il est acteur principal dans des films qui ont très bien marché, mais je dirais les fans ont vu ce film, mais lui il doit autant son succès aux fans qu'au réalisateur, qu'à toute l'équipe qui a fait le film. Je veux dire, j'ai une starification qui me paraît pas justifiée en plus, très compréhensible.
Oui, mais à la limite, c'est-à-dire même s'il le devait aux fans, même si ta communauté t'adule en échange, t'es pas censé accepter qu'ils viennent t'emmerder.
Voilà,
tu vois,
c'est ça.
Mais moi, attends, je te dis ça parce que moi, ça m'a choqué quand je suis avec mes enfants ou avec ma daronne et tout, c'est chiant. Mais je te dis ça, mec, nous, on est tranquille. Il y a des gens, tu prends des mecs comme Squeezie ou Cyprien, qui, voilà, c'est vraiment les tauliers d'YouTube ou d'autres plus connus, on parle du ciné. Quand tu lis des bios et tout, ou quand tu lis Scar Tissue, des Red Hot et tout, les gens, ils deviennent fous, tu vois.
Scar Tissue, c'est la bio des Red Hot.
Ouais, c'est la bio. Enfin, c'est l'auto-bio de Kiedis.
Je vais lire ça direct.
Tu l'as pas lu?
Non.
C'est incroyable.
J'adore les bios. T'as lu la bio de Marilyn Manson faite par Neil Strauss?
Non.
C'est incroyable.
Ah ouais? D'ailleurs, je sais pas si c'est une auto-bio, Scar Tissue. Si, je crois qu'il était accompagné. Mais je ne l'ai pas lu, je la lirai.
Ça s'appelle The Long Hard Road Out of Hell.
Et c'est intéressant de ouf.
Ouais, c'est trop bien, mec. C'est trop, trop bien. C'est juste avant qu'il sorte son album en Antéchrist, un truc comme ça.
Ouais.
Son premier qui a hyper bien marché.
Ah, mais c'était juste avant.
Ouais, c'est pendant le lancement de cet album et ensuite ça explose. Et Neil Strauss, c'est le mec qui a écrit le bouquin des Pick Up Artists, The Game, là. Bref.
Je vois pas.
Et il est avec lui tout le temps.
Okay.
C'est incroyable.
C'est trop bien.
Genre la descente aux enfers. Marilyn Manson, il est au bout du rouleau. Il prend de la coke toute la journée.
Ouais. Ah, il en parle
c'est,
et tout.
C'est un peu genre, il se dit, c'est ma dernière chance, sinon je vais rater quoi.
Oh
tu vois.
Là là. Ouais, mais, ah oui, c'était le biographe était avec lui tout le temps.
Ouais, ouais.
Ça, c'est comme Walter Isaacson et Steve Jobs. Tu
ouais,
l'as
exactement,
lu,
exactement. Il est trop bien.
Le
bouquin,
pavé,
ouais.
Il est trop bien. Ouais.
Je mettrai les références pour ceux qui écoutent.
Ouais. C'est trop passionnant. Et bah, les Red Hot, Scar Tissue, c'est génial. Et il y a des moments géniaux, genre. Donc évidemment, ils ont galéré longtemps, pendant 10 ans, je crois. Vraiment, ils ont galéré. Et il y a le jour où ils vont signer avec Sony ou Warner, je sais plus. Donc leur manager arrive et leur dit, tu vois, dans un bar, ça y est, le contrat qui arrive pour le prochain album, qui était Blue Sugar Magic, à venir, c'est un contrat à $1 million. Et là, tu vois, les mecs, ils font la chenille dans un bar. Et mec, ça me fait trop rire parce que, quelles que soient les proportions de ton succès ou du contrat, la manière que t'as de fêter ça, elle est instinctive et beau, flimée. Tu vois, ils font la queue, le mec. Je peux pas te dire mieux, tu vois. Cette anecdote dans le bouquin est ouf et c'est trop touchant.
Y a eu un moment où toi et McFly, vous vous êtes dit, oh là, ça marche, hein.
En fait, bah, tu sais, chez Golden Moustache, déjà, on a sorti Il a mis son sexe, tu vois. C'est un bon exemple de vraiment retourner aux sources et pas faire forcément tout le temps des efforts incommensurables pour faire du Spielberg. Même si très bien de faire du Spielberg. T'as vu Ready Player One?
Non. C'est bien. Je suis allé à une soirée de lancement de ça dans une salle d'arcade. C'était déjà
mais j'ai vu en 4DX. Tu vois ce que c'est, les fauteuils qui bougent et tout, ça c'est vraiment cool.
J'ai eu deux messages par rapport à ce film. Il y en a un qui m'a dit c'est génial.
Ouais.
Et un qui m'a dit c'est de la pure merde.
Évidemment, c'est pile ça. Bah, en fait, mais moi
coup, ça a sûrement quelconque intérêt.
Oui. Mais moi, en tant que. Moi, j'ai commencé. Tu sais, j'étais régisseur, cadreur, monteur. Donc, dès que je vois de la technique impressionnante, je t'avoue, je suis bon public. Donc, Spielberg me déchire la gueule, surtout en 4DX. Il y a des répliques légères et des vannes vraiment pas marrantes. Mais ça reste une bombe de ouf. Bref. Attends, je reviens en arrière. Ouais, et avec McFly, on avait fait genre Il a mis son sexe et ensuite Badass qui avait cartonné, mais c'était pas sur le long terme, rien n'était acquis, mais on se disait waouh, c'est fou, des millions de vues pour cette chanson paillarde, ok. Donc on s'est, et du coup, les gens commençaient un peu à nous arrêter, on se disait c'est sympa. Et après, on s'est pas dit concrètement, on se le dit pas, tu vois, on le ressent, on s'est jamais posé pour dire hey, ça y est, c'est cool, mec. On s'est juste dit on continue, ça plaît aux gens. Tu sais, en fait, au moment où on se parle, peut-être là au cap des 3 millions, je crois que là, ces dernières semaines, en gros, on se dit, waouh, ok, c'est vraiment fou.
Parce que ça a pris direct, en fait. Enfin, quasiment direct.
Ouais, voilà, ça a pris direct. Et puis,
il n'y a pas eu de
break.
Voilà, de longue traversée du désert à ce
moment.
Non,
exactement. Ouais. On l'a pas eu, celle-là. Peut-être qu'on l'aura un jour, on sait pas. Mais du coup, on a fait que travailler, tu vois. Il fallait garder le timing du dimanche, tu vois. Mais là, on a du recul. Et là, on se dit. Et puis, il y a des formules de gens. Il y a des petites formules qui te touchent et qui te font comprendre que ouais, c'est ok. Et puis les gens qui t'arrêtent aussi, bien sûr.
Et parfois, est-ce que vous arrivez à vous arrêter et à dire ah, c'est cool, on avance, on a du. Bon, là, sûrement pour les 3 millions, mais parce que, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et beaucoup de gens qui passent sur Nouvelle École le font pas, quoi. Ils arrêtent jamais en disant stop,
waouh, ah ouais.
Wow, qu'est-ce que ça va bien. Et ils se disent juste oh là là, c'est pas assez. Enfin, faut qu'on
continue. Ah oui, et par contre, tu sais, quand ils ont fait Bref. Pour moi, c'est incroyable le coup de maître. Genre, ils font une saison de Bref et ils arrêtent. Mec, ça m'a toujours mis sur le cul.
Moi, c'est pour ça, ça m'intéresse aussi.
Mais mec, tout le monde aurait continué. Pas forcément que pour la thune, mais juste pour surfer sur la vague, ouais. Tu vois. Ça m'a marqué. Ouais, non, bah, par contre, nous, on est assez nuls en orga. Maintenant, on a une équipe un peu, c'est stylé, mais on est à flux tendu tout le temps. Et parfois, on a une vidéo d'avance, tu vois. Et c'est le bonheur pour nous. Donc, on n'a jamais eu le recul de se dire, à part au moment où je te parle et que dans deux jours je pars en vacances, on se dit, oh, ça y est, on fait le break et ça se passe bien là, tu vois.
Et là, du coup, tu peux un peu revenir sur les événements passés.
Exactement. Dire, okay. C'est pour ça que c'est trop bien de faire ça avec toi.
Ouais, c'est un peu. Je suis content que ça tombe maintenant finalement,
oui.
Et pas plus tôt.
Oui, exact.
Parce que ça permet de faire toute une rétrospective de ce qui s'est passé.
Ouais, ça fonctionne.
Je voulais te demander aussi. On a parlé du fait que vous étiez tout le temps en flux tendu, que vous bossiez comment. Mais à ce stade maintenant, avec 3 millions d'abonnés, d'une grosse chaîne, comment ça fonctionne YouTube à ce niveau-là, tu vois?
Écoute, nous, quand on a quitté Golden, on a été débauché donc par Webedia, qui est vraiment le Real Madrid des youtubeurs et influenceurs, tu vois.
Il y a Squeezie là-bas, il y a Cyprien, il y a tout ça.
Écoute, il y a tous, okay. Tous les plus gros. Il faudrait dire plutôt qui y a pas, tu vois. Jérémy Nadeau, Labeu sont pas là-bas, tu vois. Mais tout le monde y est sinon.
Ça, c'était important dans le processus.
De quoi?
Que la chaîne marche aussi bien d'être chez Webedia.
Bah, en fait, c'est juste que le premier réflexe, ça a été de dire quand Thierry Boyer, c'est le boss de Webedia, on s'est vu, on a fait un resto. On lui a dit, premièrement, on est bien chez Golden. Deuxièmement, nous, on a des familles. Donc, si on vient chez toi, tu sais, normalement, tu marches à la publicité, au placement de produits, à la vue YouTube. Mais nous, on lui a dit, on veut un salaire, mec, parce que si on parle de Golden, on veut être sûr qu'on mangera très bien et que tout le monde aura des couches. Et du lait. Et tu vois ce que je veux dire? On veut avoir une garantie. Donc, on a demandé un salaire. Je pense pas que ça se fasse fréquemment. Faudrait demander aux autres, mais tu vois. Et le mec a dit oui, ok. Donc, on a un salaire, plus les vues de YouTube, plus quand on fait des placements de produits, tu vois.
Ouais, d'ailleurs, vous l'avez fait ça, je trouve, de manière assez intelligente. En fait, le placement, vous avez créé des partenariats et on a presque l'impression que vous les avez créés par hasard à chaque fois, genre Cdiscount.
Ça va, ouais. Ça, c'est des. On a merdé une fois sur Kenzo. On a fait. Je sais pas si t'avais vu ce truc sur Twitter, Insta. On avait Kenzo est rentré en contact avec nous et l'OP était plutôt cool. Pourtant, Kenzo n'a rien à voir avec nous. On a fait une OP et on a oublié de mentionner que c'était une OP, tu vois. On a fait genre, hé, on a découvert ce site. Et là, on nous est tombé dessus, on s'est dit, ah oui, ok, on aurait peut-être dû mentionner.
Ouais, d'accord.
Mais à part ça, nous, on aime bien, on est très genre, on assume vraiment les placements de produits. En gros, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, évidemment, qu'on va en faire encore et encore.
Ce qui vous fait vivre le plus, les placements de produits?
Ouais. C'est intéressant. Bah, à part quand tu fais des gros mois.
Proportionnellement, c'est quoi parce que.
Proportionnellement, c'est une bonne question. On va te donner un ratio, mais.
Un gros YouTuber gagne sa vie, quoi.
En fait, c'est plus la définition du profil économique. C'est-à-dire que le salaire, c'est un salaire, donc, il tombe tous les mois. Ok? Il est moins important. Mais il tombe tous les mois. Ensuite, la YouTube monnaie, c'est un petit peu plus important. Elle tombe tous les mois, mais elle est plus aléatoire. Et les placements de produits, c'est beaucoup plus important quand ça arrive, mais c'est 100 fois plus aléatoire, tu vois. Tu vois, c'est exponentiel dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment une double courbe. Mais du coup, effectivement, il y a les placements de produits ou les OP, ou les trucs avec Fanta. On se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que malgré la thune, qui est importante pour nous, enfin, nous, on assume vraiment, évidemment, on veut bien gagner notre vie. En plus, on en a chié, on a vraiment... Bon, bref, tu vois, donc maintenant on gagne notre vie, on est content, mais est-ce que on va être marrant? Est-ce que les gens vont profiter quand même de la vidéo qu'on va leur donner ou du contenu qu'on va leur livrer, tu vois?
Ça vous est déjà arrivé de vous tromper?
Sans forcément dire
avec qui, mais rétrospectivement.
De nous dire quoi?
De nous dire après un placement de produit, ouais, c'était pas bon ce placement de produit.
Franchement, je crois pas. Parce qu'on a toujours. Non, parce qu'on réfléchit bien quand même, tu vois. Non, souvent les clients sont déçus parce qu'on les mentionne pas assez et qu'on oublie. Ou souvent, tu vois, genre là, on a fait YouTube Warrior, je sais pas si t'as vu, et on dit, donc c'est World of Tank et non pas Puma. Genre Puma, ils nous ont envoyé des fringues, tout le monde croyait que c'était Puma, mais non, ils nous ont juste envoyé des fringues gracieusement. Et World of Tank sponsorisait cette vidéo qui coûte cher, tu vois, toute la déco, les accessoires, il y a beaucoup de
donc
gens.
C'est eux qui ont mis le budget pour
ils
toute la vidéo.
Ils ont mis le budget, ils nous ont payé en plus et tout. Et sauf que nous, tu vois, on est trop court, enfin, on est très laxiste. Et on fait, ouais, merci à World of Tank. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu?
Ah oui, j'ai
joué. Je ne crois pas. Et donc, ils ont envoyé un mail parce que nous, on aimait bien comme ça, on trouve ça marrant. Ils nous ont dit, mais enfin, vous faites, c'est pas de la promo, ça, c'est nul. Et on était là, all right.
Ouais, mais en même temps, c'est ce qui donne le côté authentique.
Parce oui, mais si t'es pas obligé de chier dessus. Non, franchement, tu peux peut-être. Juste dire. En fait, c'est parce que souvent, tu sais, on a un bug sur la thune et tout, vis-à-vis des gens, on a envie de se censurer, mais. Il faut assumer, tu vois.
Ah, tu crois que naturellement, vous avez une sorte de malaise par rapport au fait que vous êtes payé?
Peut-être qu'on a une sorte de cynisme et tout.
Qui vous oblige un peu à faire de l'ironie ou un truc comme ça?
Franchement, j'irais pas jusque-là. C'est pas de la manipulation comme ça un peu. C'est plus, on est très naturel, très cash. Genre là, la vanne sur World of Tanks, c'est une vraie vanne. C'est-à-dire que personne n'avait joué à ce jeu parmi nous quatre.
Ouais, mais du coup, c'est drôle. Moi, oui, j'ai beaucoup rigolé.
On va pas non plus devenir fou et essayer de dire, viens, on chie sur la marque pour pas. Non. Mais par contre, on assume, on est hyper cash, tu vois. Voilà.
Mais parce que pour le coup, je suis même pas convaincu que ça leur fasse un moins bon marketing. Parce que si vous disiez ouais, World of Tanks c'est génial, au bout d'un moment, on sent que c'est moins honnête. Alors que si on vous voit à chaque fois dire honnêtement, donc parfois vous adorez et vous connaissez
oui,
trop
voilà.
bien et du coup vous le dites, et puis parfois vous connaissez pas et vous le dites, c'est marrant. Et du coup, on se dit toujours s'il y a un truc dans leur vidéo, c'est que c'est la vérité un peu, tu vois.
Je suis amplement d'accord avec toi, le client est moins d'accord.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, je suis.
Bah, disons
d'accord.
Quand ça tombe sur toi, le côté on a jamais joué à ça,
ouais, oui.
C'est moins marrant peut-être.
Mais pourtant, peut-être on l'a pas laissé assez, mais on les remerciait de ouf. Mais comme des enfants, genre, vous nous permettez d'avoir des trucs d'obstacles, mais complètement délirants et loufoques. Donc merci, bien sûr.
Ça a changé quoi à ton... En fait, c'était quoi ton mode de vie là, ces derniers mois plus la chaîne grossissait. Ça se passait comment tes semaines?
Bah, le problème, c'est que les monteurs, les très bons monteurs ou monteuses sont pas dispo tout le temps. Donc nous, on cherche un plein temps. Mais
il arrive que vous deviez monter vos vidéos tout seul encore.
La moitié des vidéos, c'est nous, tard le soir. Franchement, je vais te dire, on était mal organisés.
Ah oui, vous cherchez un monteur à plein temps.
Oui, oui.
Annonce ton nouvelle école.
Ouais, ouais.
S'il
y a des monteurs ou monteuses à plein temps, il nous faut une bande démo, vraiment. Et être sur Paris, quoi. On fait pas de télétravail et tout, il faut qu'on...
Et ils envoient ça où?
Lefatshow@gmail.com.
Voilà.
Et par contre, même si les gens font bien de la fiction, il faut monter, il faut des montages d'humour, tu vois. Il faut qu'on voit des trucs, il faut qu'on sente la patte du rythme et de l'humour, tu vois. Une très belle fiction, très bien filmée et léchée, j'apprécierais, mais ça nous intéresse pas, tu vois. Mais non, on était mal organisés. Parfois, c'est moi qui montais toute la journée. Le soir, mec, tu couches les enfants, tu montes. Le lendemain, David, pour m'aider, il faisait la même chose. Non, c'était le bordel.
Est-ce que ça se passait genre lundi, mardi, idée, vous écrivez la vidéo, mercredi, jeudi, tournage
et... Non, pas non plus, parce que quand même, on essaie de faire des plus gros tournages, mais parfois ça, mais... Non, c'est plus d'un point de vue post-prod. On montait le vendredi, tu vois. On finissait de mixer le samedi, tu vois. C'est vraiment la veille de la diff, ouais. Ça, c'est chiant.
Pour moi, c'est exactement pareil. Hein. C'est vraiment genre... typiquement, cette semaine... J'ai pris un... on est quel jour, mercredi ? Ouais. Avant-hier, je suis allé à Lille interviewer quelqu'un. Et j'avais oublié de... Enfin, j'avais pas eu le temps de préparer l'interview qui sortait le lundi. Et donc, j'étais dans le Ouibus parce qu'il y avait la grève SNCF.
Ah, merde.
Je partageais ma connexion. Je faisais le montage. Je masterisais l'épisode sur un truc qui s'appelle Ophonique.
Ouais.
J'écrivais tout mon truc. Je publiais le podcast.
Tu vois, je sais pas...
comme ça. Mais j'ai l'impression que parfois je me dis, mais c'est pas possible, faut que tu trouves un système là.
Mais moi, j'aimais bien être comme ça avant. Mais tu verras, maintenant, on a des familles, donc c'est complètement con. C'est fatigant, tu vois, c'est trop stressant.
T'arrives encore du coup à garder un équilibre, notamment avec la famille.
C'est justement parce qu'on garde cet équilibre, c'est-à-dire qu'on les emmène, on va les chercher, on passe du temps.
Donc ça passe toujours avant, en fait.
Oui, de ouf. Mec, j'ai deux fils, ma femme et tout, c'est mec. Sans eux, je serais parti en couille, mais tu sais pas. Donc c'est bien sûr la base. Donc c'est à cause, grâce à ça, qu'on se retrouve, tu vois, à l'arrache parce qu'on s'organise mal, parce qu'on n'a pas de monteur et tout. Mais c'est en train de s'améliorer, tu vois. Ça y est, on a un chargé de prod qui est là à plein temps avec nous. Donc ça va aller. Putain, il est long. Tu vas laisser aussi longtemps ?
Bah ouais, en fait, là, j'ai complètement... Ah oui, je sais ce que je voulais dire. Je voulais dire, du coup, est-ce que t'as le sentiment que t'as dû apprendre à dire non cette année ? Est-ce que t'as dû avoir énormément de sollicitations ? Parce que vous êtes de plus en plus connus et ça marche de plus en plus. Vous devez recevoir un max. Ne serait-ce que moi, quand je t'écris, je me dis, de toute façon, je dois recevoir 1 million de messages dans la journée. Donc, je vais juste leur envoyer le message toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils le voient, tu vois.
Faudrait pas le dire, mais c'est la meilleure méthode. Faut nous relancer à mort. C'est jamais la mauvaise volonté, tu vois.
En fait, c'est ce que je dis toujours aux gens, notamment j'ai un pote, là, je lui disais, il essayait de chercher du taf. Il disait, relance. Si t'as pas répondu.
Bien sûr.
Et il me dit, non, mais ça va être dérangeant. Je dis, non, c'est juste que le mec, il a dû zapper ou il a pas le temps. Et en fait, moi, ce que je considère, c'est que tant que j'ai pas de réponse qui dit non, c'est une invitation pour moi à relancer. Alors, je vais pas relancer tous les jours, tu vois.
Ouais.
Je vais essayer de rythmer un peu. Parfois, si je relance chaque semaine pendant 3 semaines et qu'il n'y a pas de réponse, je vais attendre un mois, tu vois.
La vérité, ça reste la vérité. C'est-à-dire que si tu le relances tous les jours et qu'il n'a pas envie, c'est chiant. Mais toi, en l'occurrence, tu faisais bien de relancer parce que c'était inhérent à notre manque de rigueur. Tu vois, c'est pas la même chose.
Mais pour le coup, parfois, la personne... Moi, je pars du principe que la personne peut me dire non et que je ne serai pas vexé, tu vois. Et j'essaie de toujours être cool dans mes messages. Je dis toujours, pas de problème, etc. Tu vois.
Je comprends. Moi aussi, je suis pas susceptible là-dessus, mais ouais, je vois très bien.
Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as l'impression d'avoir appris à dire non ?
Moi, oui. Moi, je le fais plus. McFly, un peu moins, mais ouais, carrément. Après, d'un point de vue marketing, on a Aurélien qui bosse pour nous, qui est vraiment, il fait tourner la boutique, tu vois. Donc lui, il s'occupe de tous ces gens qui nous écrivent des mails tout le temps. Il le gère. Donc on a quelqu'un pour ça, en fait.
D'accord, vous avez quelqu'un à plein temps.
Ouais.
Et comment tu fais pour dire non ?
Moi, je dis non quand déjà les gens m'écrivent, ils chopent mon numéro et puis ils me disent on peut faire ça. Je dis mais gros, on a une adresse pro, on a un mec pour ça, c'est pas cool, tu vois.
Ah, donc c'est important de passer soit par un intermédiaire, soit par les voies classiques ou traditionnelles.
Vu qu'on a prévu un dispositif pour, bien sûr.
Pour pas qu'il y ait l'impression que ce soit intrusif, c'est ça ?
Intrusif, ouais, exact.
Parce que parfois, pour le coup, pour Nouvelle École, je dis ouais, j'aimerais trop inviter cette personne, tu vois. Et quelqu'un va me passer son numéro de téléphone. Et moi, je dis ouais, mais je peux pas l'appeler sur son numéro privé parce que c'est juste, tu vois.
Encore une fois, ça dépend. Toi, t'as un produit, je sais pas si t'es objectif, mais qui est cool, qui est simple, qui est un peu indé, stylé. Donc, c'est pas pareil. Moi, je te parle des gens un peu.
Ouais, genre les pneus Michelin qui veulent faire appartenir.
Un peu moins sexy, ouais. Je te parle des BDE, je te parle des marques qui arrivent. Tu vois, des grosses entreprises.
J'avais pas pensé aux BDE, vous devez recevoir trop de trucs de BDE.
Mais on a prévu, on va essayer de faire une astuce, ouais. Mais c'est un truc de ouf, les BDE. On ne fait pas ça, on ne sait même pas à quoi ça correspond. On ne comprend pas les entités que sont les universités, les écoles de commerce. Donc. Mais voilà, mais sinon, des mecs comme toi, tu rigoles. Twitter, Insta, tu sais, c'est cool.
T'arrives à... Enfin, tu regardes encore les messages, tu regardes encore les commentaires,
Les commentaires.
Parce que sur Insta, j'ai vu que t'avais bientôt 1 million d'abonnés, je me dis, moi.
Oui, exact.
Moi, j'en ai 6 000.
Oui.
J'en ai 6 000, et parfois, quand je fais une story, j'arrive pas, quoi, à lire tous les messages. Je me dis, 1 million, c'est beaucoup de fois plus que 6 000.
Sur Insta, en fait, Insta est quand même plus positif dans l'ADN, plus bienveillant que Twitter.
Que Twitter, bien sûr.
Donc, Insta, j'aime bien de temps en temps passer du temps. À tout lire, en vrai. C'est vrai, tout simplement. C'est un peu fou, mais en même temps, c'est cool, tu vois.
Ça fait du bien aussi, ouais.
Ouais, et puis, tu vois ce qui se passe vraiment, quoi, concrètement, le rapport que tu as avec les gens. Et Twitter, maintenant, je l'ai enlevé de mon téléphone. En fait, j'aime bien Twitter. c'est aussi intéressant que hardcore, mais je l'ai enlevé l'appli de mon tel, ce qui veut dire que je passe que par l'ordi, donc j'y vais une fois tous les 3 jours maintenant. Et mec, c'est la meilleure décision que j'ai prise.
Alors attends, pour aller encore plus loin, j'ai viré Twitter et Facebook de mon tel.
Ouais.
J'ai une application qui s'appelle Freedom sur mon tel, qui m'empêche d'aller sur les réseaux sociaux que j'ai choisis.
Putain, mais c'est génial ça.
Bah, mec, c'est génial, ça a changé ma vie.
Je cherchais une application.
Bah, Freedom.
C'est super.
Freedom, et faut le payer, c'est pas très cher, hein. C'est genre 20 balles par an.
Putain,
et
donc le nom est mensonger quoi. Freedom, mais tu
non,
payes.
Non, mais c'est vraiment. Parce qu'en fait, il y a une version gratos.
Okay.
La version payante est bien meilleure parce qu'en fait, ça synchronise et sur ton ordi et sur ton tel. En même temps, les mêmes. Tu fais des listes de sites que tu veux bloquer.
Okay.
Et moi, j'ai un truc récurrent qui tous les jours bloque tous ces sites, sauf une heure par jour. L'heure où je veux poster, où je veux faire des, tu vois.
Et en gros, compte qu'on est devenu, on a besoin d'un robot.
Mais oui, mais c'est hyper important.
Ouais.
Et en fait, pourquoi la version payante? Parce que tu as un mode verrouillé sur ordi. Tu ne peux pas quitter Freedom.
En tout cas, c'est le placement de produit le moins discret que j'ai vu dans un podcast.
Ah ouais, mais je devrais tellement me faire payer. La dernière fois, tu sais, j'ai une newsletter dans laquelle j'ai fait des recommandations de trucs que j'utilise un peu.
Ok.
Et la dernière fois, il y a un mec qui me répond. Ouais, bravo, on voit que t'as trouvé un moyen de faire de l'argent. Et du coup, je poste sur les réseaux sociaux, je dis, mais je ne fais pas d'argent.
Mais attends, mec, attends, reviens là-dessus. Et reviens un quart d'heure plus tôt. Cette phrase est folle. Franchement, il faut qu'on fasse un truc, nous tous. Si le mec te dit, de manière un peu véhémente, là, comme tu le décris, ah, bah, t'as trouvé un moyen, avec un peu de seum. Il faut lui dire, oui. Mais imagine que ce soit le cas, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'essaie de pas être réac, mais quel serait le problème si quelqu'un te rémunérait? Tu vois? Il s'en fout, le mec, ton podcast, il est fou, tu peux bien dire de temps en temps. Tu vois?
Ouais, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai presque toujours un malaise a priori, tu vois. En me disant,
oui.
J'ai l'impression que je vais tricher, que je vais trahir si je fais de l'argent, tu vois.
Ok, mais surtout, est-ce que.
Alors que fondamentalement, je crois pas à ça. Je crois que c'est bien de se rémunérer, tu vois. Il faut gagner sa vie, quoi.
Voilà. Est-ce que t'as envie de te justifier quand quelqu'un te dit, ah bon, enfin, tu vois, faut faire attention, faut pas se justifier. C'est pas grave, tu vois, de gagner de la thune comme ça. Faut faire attention, bien sûr. C'est le juste milieu entre la création et l'oseille. Mais en l'occurrence, nous, sur YouTube, c'est notre bif. À part qu'on a négocié un salaire, c'est une info que je vous donne, confidentielle. Mais en vrai, on a besoin de ça, tu vois. Sinon, ça suffirait pas, tout simplement.
Ouais, ouais, moi j'essaye déjà de. Ouais.
Car YouTube est gratuit, je le rappelle.
C'est vrai.
Mais tout autant que tes podcasts.
Nouvelle École est gratuit aussi.
Donc, ce qui est trop, trop, trop bien comme
système.
J'en
profite pour placer un vrai produit, qui est le Patreon, sur lequel vous pouvez faire des dons, puisque cet épisode va sûrement être écouté par plein de gens.
Ah, cool.
Donc, vous pouvez faire des dons sur le Patreon de Nouvelle École, et ça vous permet de contribuer à...
C'est bien, ça.
Ouais, c'est super.
C'est quoi, Patreon?
En fait, c'est comme Tipeee.
Oui. Ok. Cool.
Voilà, c'est un peu comme Tipeee, quoi.
Sauf que
j'ai choisi d'aller sur Patreon. Voilà, je ne dirai pas plus.
Nickel.
Est-ce que parfois, tu te dis pas... Ouais, c'est long, mais t'as le temps, non?
C'est incroyable. Écoute-moi, j'ai le temps... Je vais aller déjeuner pas loin, tranquille.
Ça dure pas encore une heure, hein, ça dure encore un petit quart d'heure. Quoi.
Écoute-moi bien. En plus, le nouveau One Piece est sorti, donc je te promets que je vais aller en terrasse juste lire One Piece.
En
manga.
Ah ouais?
Ouais. Mais en fait, moi, j'adore, mais je veux pas que ce soit trop long pour les gens, tu vois.
Ah non, mais ça, c'est pas grave.
Ok.
En fait,
j'ai l'impression, oui, que j'ai déjà eu des commentaires, c'est sur Histoire de Daron avec Fabrice Laurent. C'est que ceux qui... prennent le temps de commencer à écouter, écoutent jusqu'au bout.
Ouais, en fait, les gens qui vont pas écouter jusqu'au bout Nouvelle École, bah c'est pas ces gens-là dont je veux écouter la vie, parce que tu vois, on m'a déjà dit.
En l'occurrence, excuse-moi, là c'est quand même très long.
Ouais, mais c'est super. Moi, quand je sais que si je voulais, j'essaie vraiment de faire l'émission que je voudrais écouter, tu vois.
Là, t'es content?
Ah ouais, je suis hyper content.
Trop bien.
Et en plus, je me disais récemment, je pense que du coup, j'ai créé un format où j'arrête souvent au bout d'une heure parce que je me dis c'est pile la durée. Mais en fait, parfois, il y a des conversations sont trop bien après une heure et je me dis tant qu'on a envie de parler, on a envie de parler, quoi, tu vois.
S'en fout, moi, j'adore parler.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Est-ce que tu penses, on en parlait tout à l'heure par rapport à la créativité, est-ce que tu penses que tu sauras arrêter au moment où, bah, tu sais, on parlait de bref.
Ouais.
Ils se sont dit, on n'est pas sûr de pouvoir faire la même chose en mieux. Et du coup, on arrête.
Écoute, je vais être honnête. L'exemple de bref, je m'y réfère souvent. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que j'aurai une grosse discussion avec McFly, tu vois. Mais,
imagine 10 millions d'abonnés. Tout marche trop bien. La énorme de thunes qui tombe, du coup, sûrement. Enfin, ouais. tous ces facteurs, en fait.
Bah, après, la thune, je me rends pas compte. Là, on commence à bien gagner, mais pas assez pour essayer de se dire ce que ça pourrait être quand t'as plein de thunes. Par contre, artistiquement, en termes de création, ce qui peut se passer, je pense, à mon humble échelle pour l'instant, c'est les projets périphériques. Si tu signes pour une série, tu vois, ou si tu te lances dans un film, je te dis de la merde, ou alors un album ou une tournée, par définition, tu vas calmer YouTube, sauf si t'es un forceur, mais c'est ce qu'on n'est pas. Donc, tu vas faire une pause, tu vois. Mais après, est-ce que toi, tu entends une pause sur YouTube ou une pause globale de la carrière d'artiste, tu vois? C'est ça la vraie question. La pause globale, elle viendra plus tard, mec. Moi, je suis déjà chaud pour... En fait, j'ai un rapport...
Quand je disais arrêter, je disais arrêter McFly et Carlito. Plutôt,
ouais.
Tu vois?
Franchement, je peux pas te dire. On suit notre instinct. On est très au quotidien, tu vois. Et on a aussi un truc très important. On se l'est dit il y a longtemps, mec. On se l'est dit devant le Carrefour City de rue des Bourguignons à Bois-Colombes. C'est que on se dit, mec, dès maintenant, c'est quand ça commençait à bien marcher, tu vois. Il y a un an et demi, tout. Il y a un an. Moi, je peux partir vraiment faire un camion de pizza dans le sud. Et lui, il pourrait vraiment faire de la pêche. On est heureux déjà de tout ce qui est arrivé, tu vois. Donc, sachant qu'on pourrait arrêter maintenant et vivre une vie paisible, ça nous aide beaucoup, enfin, tu vois, dans notre rapport à la carrière professionnelle.
Qu'est-ce qui a fait que vous pouvez arrêter maintenant et vivre une vie paisible?
Parce que, mec, ça, je le connais depuis que j'ai 15 ans, que ça fait un an maintenant qu'on reçoit des messages et de l'amour en pagaille de gens qui te disent des choses qui te satisfont, je sais plus. Je suis nul en concordance, surtout sur les subjonctifs.
J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans cette émission, alors.
Et surtout que là, c'est une réflexion philosophique. C'est-à-dire que je te dis pas qu'on a envie d'arrêter. On a encore plein de trucs à dire. Donc là, on va pas lâcher tout de suite. Mais par contre, dans le fond, tu sais, il y a des gens, je suppose, qui se disent, qui sont pas paisibles dans leur tête, qui se disent, non, il faut pas que je lâche, sinon j'ai plus rien, tu vois. Mais en gros, nous, si on lâche, ou si il y a Armageddon sur la sphère McLean-Carito, c'est pas grave. C'est plus ça. Bonsoir.
Bonsoir. Et du coup, t'aurais pas peur que ça te manque un peu un truc à la Sunset Boulevard, tu sais, genre.
Je vois pas.
C'est un film avec une grande actrice hollywoodienne qui est plus actrice et du coup qui.
Eh mec, franchement, je suis pas très fort, je te dis, hein, j'arrive pas trop à anticiper ça, je crois pas.
Parce que parfois, je me dis ça, je me dis, tu vois, là, je suis vraiment content que mon truc marche un peu, qu'il y ait des gens qui m'en parlent et tout. Et je me dis, si ça s'arrêtait du jour au lendemain, est-ce que je serais en PLS parce qu'il y a plus personne qui s'intéresse à moi ou est-ce que j'arriverais à me dire, bon, bah, coup, je vais faire autre chose, tu vois.
C'est une bonne question. Après nous, on est. Je vais dire cette phrase. Bon, je la dis, je la pense sincèrement. Elle est pas galvaudée, mais on est pareil dans la vie que dans ce qu'on fait en vidéo, tu vois. Et je te disais d'ailleurs quand on était au Bahut, on faisait ça déjà et c'était pas filmé. Donc ça me manquera pas juste de me déguiser en la Reine des Neiges pour faire rire les fils, tu vois. C'est la chose qui arrivera, tu vois. Tout le jour, donc de rire. Et David, c'est mon pote, je le vois les week-ends. Donc faire les cons et tout, ça arrivera tout le temps. Techniquement, ça me manquera pas. Par contre, avoir des concepts vidéo, créer des trucs. Peut-être ça me manquera. Là, on sait qu'on va le faire encore. On a encore des bons trucs. Peut-être il y a ce jour. Ça doit être une grosse discussion avec les artistes, mais faudrait discuter avec plus mature ou plus expérimenté que moi. Mais est-ce qu'il y a un jour où t'as plus rien à dire, à véhiculer, tu vois?
C'est ce que disait un mec que je suis beaucoup, qui fait un blog. Il écrit un article. Il s'appelle Seth Godin. Ouais. Et il écrit un article de blog par jour depuis 16 ans.
Oh la vache.
Par email, tu le reçois. Mais je pense qu'il y a des jours où il en écrit 10 et des jours où il en écrit pas, tu vois.
Oui.
Et il a envoyé un article il y a 2 semaines où il disait j'ai plus rien à dire.
Mais c'est tellement honnête et classe.
C'est fou, je viens de me rendre compte que j'ai plus rien à dire.
Mec, c'est pas classe ça. Et bah, bref, à leur échelle, quand ils arrêtent, c'est un message aussi de dire on a fait ce qu'on a fait, ciao. Putain, moi je trouve que c'est la classe ultime. Franchement, j'espère pouvoir te le certifier, on peut jamais promettre, tu vois. Mais si un jour on a plus rien à dire, on arrête. On force pas.
Ouais, parce que je trouve qu'il y a rien de. En fait, moi, j'aimerais bien que Nouvelle École ne devienne pas Ancienne École, par exemple, tu vois.
Bien sûr.
Où tu te dis, ah ouais, ça fait 5 ans qu'il dit la même chose, donc en même temps.
Franchement, mec, c'est un milieu, il y a d'abord ta propre réflexion, et puis tu vas voir ce que les gens vont te dire.
Il y a un dernier truc que je voulais te demander. Je t'ai entendu dans. Et là, ça va peut-être couper un peu avec le podcast Histoire de Daron, où je t'ai entendu dire que quand t'étais peut-être plus jeune, tu voyais des familles un peu qui étaient genre les familles du bonheur, tu vois.
Bah ouais, oh, c'est vrai ça.
Parce que
ouais.
Moi j'ai grandi dans une famille qui était à peu près n'importe quoi.
Ouais.
Et
bienvenue au club.
Mon père était pas là non plus, il y avait plein de choses comme ça.
OK.
Et je me souviens très bien d'être arrivé dans des maisons parfois et de me dire waouh, mais ça existe. Il y a des gens il y avait des frisbees, le chien, ils jouaient avec les gosses et tout.
Alors attends, juste parce que là j'ai dit bienvenue au club. Si ma daronne écoute si ma daronne écoute ce podcast, non, c'est odieux. Sache que tu es la meilleure du monde et que c'était génial et que je ne me sens pas floué ni traumatisé. Voilà. Mais c'était quand même un peu le bordel.
Idem pour la mienne.
Voilà.
Sauf que je suis obligé de le dire. Sinon
oui.
Après,
bah oui, fais gaffe. Moi, elle m'a engueulé la dernière fois parce que dans une vidéo, je faisais un running, tu vois. Ah, mon père machin, ma mère alcoolique, ancienne alcoolique et tout. Elle m'a dit, mais mec, j'ai arrêté, j'ai tout déchiré, j'ai arrêté la clope, reste tranquille. Elle m'a calmé, j'ai fait yes, ok. T'as tellement raison.
T'as fait une story corrective ou pas?
Non, la story corrective, c'est pour les gens d'arrêter.
Bonne réponse.
Voilà. Non, ma mère, on se parle, bien sûr. Mais ouais, et du coup, bien sûr que je voyais les familles, tu vois. La famille de Maxime Chabot, tu vois. Le mec, le daron, il avait la marque Split. Tu te rappelles la marque Split?
Non.
Très bonne marque.
Ah, si, de skate?
Ouais.
Ah, ouais, très bien, ouais.
Et la daronne, elle était sublime, et la sœur, trop cool. Et j'étais là, ok. Et tout le monde s'entendait trop bien. Et ils mangeaient bien, ils faisaient du sport, ils écoutaient du rock. Je dis pas qu'il y a qu'un seul modèle de famille. homogène. Mais moi, en tout cas, c'était mon modèle. Et du coup, c'est ce que j'essaie de reproduire, bien sûr. Donc, j'essaie avec ma famille de... Tu vois,
comment tu fais justement? Je te pose cette question, c'est très personnel. C'est, je me dis, moi j'ai grandi en me disant ça, en me disant moi je vais faire comme les familles où ça a l'air cool, et je vais y arriver, tu vois. Et plus ça va, plus je me dis, parce que je sais que j'ai déjà fantasmé plein de trucs en grandissant, ou ensuite quand je les ai fait vraiment, je me suis dit en fait c'est pas si facile que ça, tu vois.
Ah bah non, c'est pas facile, ça c'est sûr.
Et je me dis, bah, j'espère que quand ça va être le moment, je vais pas genre complètement loser, commencer à prendre de la coke, tu vois.
Non, ah bah là, tu serais bien con.
Ouais.
Là, c'est toi et toi-même.
Voilà, mais
moi
toi...
c'était pour le coup pas un fantasme mais un vrai but, tu vois. Donc non, tu vois, je te dis, ma meuf, je la trouve incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. Les enfants, ils ont les cheveux longs et ils sont sublimes et on leur donne, on fait au max. Moi, c'est ce que je veux. Juste, chacun a sa vision de son modèle parfait, tu vois. Moi,
et toi, c'est quoi ta vision du coup?
La famille, c'est le moteur. La vision, bah, après, c'est là pour le coup universel. C'est juste de l'amour absolu tout le temps, tu vois. Et une famille trop cool. Et il y a un poster de Nirvana. Ma vision, c'est qu'on je vais aller faire grandir dans le rock. Tu vois, à une époque où c'est un peu moins accessible quand même.
Mais je pense que ça va revenir là.
J'espère,
putain. Je pense que j'en parlais, je suis allé voir Orelsan à Bercy. J'en parlais avec un pote à moi. Et je pense vraiment que le rock va revenir, mais pas forcément comme du rock à l'ancienne, tu vois, mais que ça va se réintégrer notamment au rap, etc. Parce que dans les concerts, j'avais vu, je sais plus quoi, PNL, je crois. En fait, je pense que dans les concerts, ça manque le rock, tu vois. Parce que le rock, c'est pas pareil en concert. Il y a un côté, c'est l'arène, quoi.
Totalement.
Et je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça revient pas mal dans une branche du hip-hop aux États-Unis, les trucs à la Lil Peep et tout, avec des mélodies plus rock, etc. Tu vois.
Exact.
Donc je pense que il va y avoir un son qui revient un peu, qui tabasse. Je regardais Nirvana, justement, je regardais des vidéos, un live, etc. Et j'ai réécouté, j'ai acheté le vinyle du Unplugged et tout.
Cool.
J'ai pas de platine, mais dans un autre endroit. Et je regardais Nirvana et je me disais, mais putain, mais ça déchire. Et j'avais oublié, en fait, parce que c'est le premier groupe dont j'ai été vraiment fan.
Bien sûr.
J'avais Kurt Cobain en poster partout, j'avais les cheveux longs, c'était dégueulasse. J'avais des Converse.
Parfait.
Et les jeans troués.
Ouais.
Et j'ai regardé ce live et je me suis dit, mais ça déchire. Mec, c'est tellement fort.
Bah attention, moi j'adore le rap, j'adore plein de trucs, hein. Vraiment, vraiment. C'est pas une phrase de vieux, j'adore vraiment le rap. Mais bien sûr, baigner dans le rock et tout, c'est Nirvana, mec, c'est incroyable. Moi ça me rend fou. Écoute, toutes les semaines depuis que j'ai 16 ans. Mais j'exagère un peu, bien sûr. Mais non, et pour revenir à la famille, c'est juste un schéma que je kiffe, tu vois. Grandir ensemble, passer du temps ensemble, tu vois. La famille, en fait, le schéma familial est le mieux, tu vois.
C'est le temps, la variable la plus importante.
Ouais, franchement, ouais. J'en avais déjà parlé, mais je pense que ça définit tout. Techniquement, si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, à moins que tu fasses que regarder la télé, mais c'est quand même pas le but, tu vois.
C'est un truc que je trouvais hyper intéressant dans une émission que j'ai écoutée récemment, où peut-être c'était un talk, je sais plus, le mec disait, le temps, c'est la seule unité que tout le monde partage, mais de la même manière, tu vois.
Ouais.
Genre, en gros, tout le monde a le même temps. Tout le monde n'a pas le même argent ou les mêmes ressources, mais tout le monde a le même temps. Donc en fait, si tu dépenses ton temps, ça vaut la même chose pour tout le monde, tu vois. Si tu vas par exemple, si tu me dis, ah, j'ai filé 10 dollars sur Wikipédia, tu vois, je vais te dire, bah, super, quoi, pouce en l'air. Mais si tu me dis, mec, j'ai passé une semaine à repeindre des maisons, ça, c'est dans une conférence, voilà, c'est ça.
Mais mec, bien sûr, écoute, le temps, c'est quand même un thème privilégié de tous les penseurs et de tout plein de gens, quoi. Moi, je suis totalement d'accord, il y a des thèses sur le temps, il y a tellement de trucs. Enfin, il y a des thèses sur tout, en même temps, c'est con ce que je dis, mais par définition, c'est une valeur absolue. Quand tu donnes du temps, c'est sûr qu'il se passe quelque chose de différent et totalement. Pour la famille, c'est ce qui se passe. Passer du temps à travailler une vidéo, bien sûr. Passer du temps à parler. Et si les gens passent du temps à écouter, évidemment, on est complètement d'accord. C'est de la philosophie pure sur le temps, mais mec, c'est sacré. Et moi, ça me rend fou. Sache que là, j'ai commencé à me détendre, tu vois, mais j'avais une espèce de tic. Je sais pas où ça se passe dans l'encéphale, mais quand je jouais à Final Fantasy, par exemple, tu vois, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo. Beaucoup, beaucoup. Et je prenais beaucoup de plaisir. Donc, c'était un temps à faire quelque chose de kiffant. Et j'avais une horloge que je regardais, mais mec, toutes les 2-3 minutes. Et plus je le raconte, cette anecdote, plus je me dis que je regardais l'horloge, mais toutes les 30 secondes, tu vois. Genre un tic sur le temps qui passe, en fait, quand tu fais une bonne chose, tu vois. Ou même quand tu baises, tu regardes combien de temps t'as baisé. Ou quand tu manges un putain de restaurant ou une putain de soirée, je me dis, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Genre, est-ce que je vais kiffer? Combien de temps je vais kiffer? Une fois que c'est fini, quand est-ce que ça va revenir, tu sais? Donc non, franchement, mec, je peux devenir fou là-dessus. Et plus tard, j'aimerais bien écrire un truc là-dessus.
Mais ce qui te fait peur, c'est quoi? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est le temps qui passe trop vite?
Oui. Non, le temps qui passe, tout court.
C'est juste, je suis en train de m'amuser et le temps passe?
Ouais, ou je suis en train de vivre et le temps passe. Moi, je ferais partie des gens que la vieillesse effraie. Par le fait d'être vieux.
Ça va s'arrêter, c'est ça?
Ouais, voilà.
C'est le côté mon moment va s'arrêter, c'est ça?
C'est plus ça, ouais. Ou putain, combien de fois dans ma vie je vais pouvoir revivre ce moment? C'est plutôt ça. Tu vois, en fait, la vieillesse en soi, moi, j'ai trop hâte d'être vieux. Je vais lire, fumer des pets et grossir et tout. Ce sera bien, tu vois. Et je donnerai que des conseils tout le temps, tu vois. Vraiment, je me vois comme
tu
ça.
Tu devrais faire à nouvelle école.
Mais,
avec
ouais, les... ouais. Mais ceci dit, tu vois, par exemple, là, en fait, la culture du temps, genre là, j'ai une semaine avant de partir en vacances, j'ai une semaine un peu libre, tu vois, où je me permets de te voir et tout. Et je suis un maniaque de l'emploi du temps, de optimiser le temps. Voilà. Mais j'en fais trop. Il faut que je sache me détendre, tu vois. Mais c'est chaud.
Ouais, mais en même temps, c'est très compréhensible. Moi, j'optimise énormément aussi.
Ouais.
Et, mais je pense que dans la suroptimisation, il y a un problème, c'est le côté on veut trop en mettre et du coup, c'est ingérable.
Ouais,
et du coup, t'as toujours l'impression de passer à côté de quelque chose parce que t'aurais encore pu plus en mettre. Et j'ai lu 99 francs récemment, le bouquin.
Oui, bien sûr.
Et ce qu'il dit dedans, Bec BD, c'est en fait le vrai problème, la source du problème, c'est que les gens veulent pas s'ennuyer. Ils sont pas prêts à s'ennuyer, tu vois.
En fait, c'est. Ouais. C'est
et je me dis,
c'est incroyablement
ça.
Vrai, bien sûr, mais surtout, moi. Il y a cette parano qui naît. Parce que moi, j'aime bien. À un moment, je me retrouve dans un endroit. Genre, Flaubert, il marche des heures, mec. Tu le vois partir d'un endroit. Et tu rentres, toi, en Uber ou en métro. Et lui dit, je marche à pied. Je marche. Mais tu dis, mec, t'es à 2h30 de chez toi. Tu vois ces stories, parfois, ce mec, il marche énormément. Et moi, je le ressens. Je comprends trop ce truc, tu vois. Parfois, je me retrouve et je fais rien. Je pense que j'y arrive. Je parle là, on est sur l'introspection, c'est un peu perso, mais peut-être que les gens peuvent s'y retrouver quelque part. J'y arrive. Mais quand je suis dans le rythme parisien, j'ai ce truc de parano de putain, j'ai toujours quelque chose à faire. Quand est-ce que je. Et en fait, tu sais quoi? Je crois que j'ai une des réponses et tout. C'est que c'est géographique aussi, entre autres. Faut bouger, tu vois. Quand je retourne, parfois je vais en Bourgogne et tout, il y a une maison de famille là-bas. Ou quand je bouge complètement, c'est là que ça marche.
Bah moi, la dernière fois, je suis allé en Normandie pour faire un truc et ça m'a complètement coupé aussi. Mais ça m'a aidé à.
Ça fait du bien.
Ouais, mais je pense que c'est là, du coup, aussi qu'il faut. Enfin, que moi, j'essaye d'apprendre à dire non à des trucs, tu vois. Pour justement essayer de faire un peu plus comme Flaubert par exemple et de m'ennuyer parce que dans ces moments où je m'ennuie et où justement je place rien, c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées.
Bien
sûr. C'est souvent là que j'ai tu vois, que je repars en fait. Et si je le fais pas, j'ai l'impression que tu sais que je suis comme un petit hamster dans une roue et que même si j'optimise mon temps, finalement je suis pas forcément plus productif parce que parfois je vais arrêter de bosser pendant 2 jours et avoir une idée de ouf qui va me faire lancer mon projet et ensuite qui va trop bien marcher, tu vois.
Je pense que c'est quand même très relié à la vie parisienne. Je déteste les généralités, mais pour le coup, je pense que t'es dans un rythme comme ça, tu vois, assez. Tu subis l'air de la ville, tu vois, enfin le rythme, le tempo plutôt.
Ah ouais, à Paris, c'est dingue. Voilà. Hein. J'avais un pote qui est parti en Thaïlande, genre bosser en mode digital nomade sur la plage, que là-bas, il y a des trucs de. Apparemment, t'as des trucs de Wi-Fi de ouf.
Ouais.
Et ça coûte vraiment rien du tout, tu vois. Donc tu peux vraiment, genre, avec 100 balles, tenir longtemps.
Ok.
Et il est revenu. Et il m'a dit, mais direct, je me suis mis la pression, quoi. Alors que j'ai vraiment rien fait. Il est revenu et il m'a dit, ouais, mais en fait, là, ça réaccélère trop vite. Tous les trucs de pression reviennent direct, tu sais.
De ouf. Mais il faut des astuces. Il faut prendre le temps. Peut-être pas, oui, de s'ennuyer, mais juste prendre le temps, en fait. Franchement, breaker. La culture du break, c'est un truc trop important. Moi, là, enfin, je commence à dire, je serai pas dispo, mais pas du tout dispo. Genre, mon portable sera dans une corbeille en osier.
Parlons de ça. J'ai acheté.
Un panier.
Pour de vrai, j'ai acheté un truc qui s'appelle. Deuxième placement de produit. Troisième.
Troisième non rémunéré.
Ça s'appelle K-Safe. K-Safe. Importé des États-Unis, $39.
Ouais.
C'est une boîte en plexiglas avec un minuteur. Top! C'est une boîte en plexiglas avec un minuteur dessus. Je mets mon téléphone dedans. Je mets le minuteur. Je mets genre 6 heures. Je ferme. Ça verrouille la boîte. Je peux plus prendre mon téléphone.
Hey, mec, là, alors écoute-moi bien. Je trouve ça génial.
Et
je pense que non, génial. Mais je pense que l'étape suprême, c'est d'y arriver de son propre chef sans appareil.
Non, c'est trop dur. Pense que c'est comme quand tu fumes des clopes.
Ouais.
Moi, j'ai arrêté de fumer il y a un moment, quoi.
Bien.
Et
moi,
je ne peux pas avoir des clopes et de choisir de ne pas les prendre. C'est j'arrête l'addiction, je la coupe de
oui,
moi.
Oui, d'accord.
Ou je la coupe pas.
Tu te fais aider finalement là.
Bah ouais, il faut parce que c'est une vraie addiction le téléphone. C'est pas juste une envie. C'est genre, t'as besoin d'avoir ton shot de dopamine parce que sur Instagram, il se passe des trucs, etc.
C'est un truc de fou. Et pourtant, c'est un bien faible shot avec des bien faibles informations. Mais c'est juste qu'on le fait tous les jours, voire toutes les heures. C'est un truc de ouf.
Bah, d'autant que si t'as ton 6 heures, finalement, ça change rien, en fait, parce qu'il n'y a aucun message sur Instagram
vraiment.
Qu'il fallait absolument voir maintenant, quoi.
En fait, il y a un truc. Twitter a ce truc de l'information immédiate, mais c'est complètement con parce que ça arrive tous les 3 mois si t'as une. Tu vois, genre, il y a YouTube qui se fait. Oh là là, ça y est, je commence à fatiguer.
Ben voilà, on va arrêter.
Qui se fait cambrioler, j'allais dire. Tu vois, il y a du terrorisme à YouTube. Oh là là, j'ai plus les phrases. En tout cas, pour l'info. Qui se fait, non, c'était pas ça. C'était quand la meuf a shooté sur des gens au QG de YouTube.
Ah oui, d'accord.
Et sur Twitter, effectivement, quand t'as des infos, tu les as dans les 30 secondes. Mais techniquement, à part ça, en vrai, ça peut attendre.
Allez, Kirito, on va faire une dernière question.
Ouais.
C'est la question que je pose en général à la fin. C'est, qu'est-ce que tu dirais au Carlito de 20 ans?
Fais gaffe, c'est une question que beaucoup de gens posent en interview, attention.
C'est vrai?
Ouais. Il le fait, Fabrice Laurent le fait.
Ouais, il me l'a volé, son frère.
Mais mec, s'il te l'a volé, c'est-à-dire vous l'avez volé.
Bah moi, je l'ai volé.
Mais on s'en fout,
c'est bien. Je l'ai volé en Amérique, moi.
Et du coup, j'avais répondu à un truc nul, je peux peut-être faire mieux. Répète la question.
Qu'est-ce que tu dirais à Carlito, qui a 20 ans, si tu pouvais voyager dans le temps? C'est un peu ton note pour trop tard de Orelsan, mais version Carlito, quoi.
C'est-à-dire, je vais me voir, moi.
Tu vois toi plus
mais
jeune.
Mais moi, je suis moi, ce que je suis maintenant.
Tu es ce que tu es maintenant. Tu prends une machine à remonter dans le temps.
Ouais, mais du coup, mec, est-ce que... Putain, c'est comme Family Guy quand ils font tu préfères ou tu préfères et qu'ils partent très loin, mais est-ce que le mois de 31 ans qui va voir le mois de 20 ans, est-ce que donc j'explique, j'ai le droit d'expliquer la situation?
Tu as le droit de lui dire je suis ton toi.
Ok.
Je suis toi.
Et du coup, est-ce que j'ai le droit de prendre le temps de lui dire voilà ce que tu as vécu ou ce que j'ai vécu, du coup, ce qu'on a vécu?
Ouais. Tu as le droit de prendre le temps que tu veux, je pense.
Ok. Et donc, si je suis assez intelligent à 20 ans pour avoir le recul, c'est-à-dire que est-ce que je vais avoir envie de vivre la vie que je kiffe là actuellement, c'est-à-dire la MIFA, YouTube, tout, mes piliers? Ou est-ce que... Ah oui, ça peut être ça. Soit je lui dirais ça. Je dirais, voilà ce qui va se passer, tu vas vraiment kiffer. Juste ces deux trucs-là, tu les fais pas. Il y a deux trucs qu'il fallait pas que je fasse pendant les 11 dernières années. Et sinon,
qui sont confidentiels,
tu ne les sauras jamais, bien sûr. Ou sinon, je lui dis, vu que tu vas vivre ça et que je l'ai vécu et que c'est cool, je te transmets l'info, c'était génial, fais autre chose.
Ah non, il serait dégoûté.
Tu crois?
Fais jardinier, du coup, tu vois, ou genre...
Mais jardinier, ben ça dépend. Ouais, bon, je kiffe pas, je suis...
Non, mais j'ai aucun problème avec le fait de faire jardinier. Juste, je pense que ça l'aurait moins saucé à 20 ans.
Donc, si on est sur cet axe de réflexion, je disais, bah, mec, juste fais pas les deux choses vraiment nulles que t'as faites. Et sinon, fais tout pareil, c'est trop bien.
Bon, bah du coup, ça...
Ah, fais plus de sport. Parce que ça part vite après. La bedaine, quand elle arrive à 30 ans, c'est odieux.
C'est pour de vrai, ça arrive forcément.
Ouais, et puis surtout, les graisses sont stockées. Je parlais avec mon ostéo l'autre fois, putain, ça part en couille ce podcast. Qui me disait, en fait, à partir de 30 ans, surtout si tu fais pas de sport, ça reste là-dedans, c'est très dur à enlever, tu vois.
Je vais m'y remettre alors. J'avais lancé l'opération Corps d'Apollon il y a un an.
Ouais.
Ça s'est arrêté au bout d'un mois.
Comme beaucoup de gens.
Mais je peux la relancer là. Apollon 2.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Carlito, d'être venu sur Nouvelle École.
Merci.
Les gens qui écoutent, est-ce qu'on leur dit souscrivez à un abonnement sur McFly et Carlito?
Pourquoi pas, écoute. Ils sont libres.
Ils sont libres.
Je suis détendu, ça y est.
Ouais, c'est vrai.
On dirait vraiment un ring de boxe.
Bah, je suis vraiment content.
Et non, on leur dit merci. S'ils ont tenu jusque-là, merci de ouf d'avoir écouté.
Alors, on pourrait dire, tu veux voir, je suis sûr qu'ils ont tous tenu jusque-là. Tu pourrais dire un mot genre concombre et s'ils ont tenu jusque-là.
Ok. Si vous avez tenu jusque-là, dites. Putain, c'est quoi le point? Attends, parce que j'oublie souvent le point G, mais pour les meufs.
Bah, c'est le point G, non?
Non, non. Ah, non, pour les mecs. Attends, le point G,
la
c'est
prostate.
Pour les... Oui, mais il y a un nom, il y a un autre nom scientifique. J'aime bien les nions. Les nions. J'aime bien les nions. Non, mais tu sais, les noms scientifiques des choses, des termes démocratisés, tu vois. Genre, les femmes en elles ont des trucs géniaux, tu vois. Mais c'est pas ce que je vais parler maintenant. Si vous avez écouté ce podcast jusque-là, n'hésitez pas à écrire. Il y a des commentaires, on peut commenter?
Pas sur les podcasts.
Et oui,
ça.
C'est ça.
En revanche, on peut taguer sur Instagram, on peut parler sur Twitter, on peut faire ça, quoi.
D'accord. Publiez où vous pouvez le mot scaphandre. Scaphandre ailé. Aucumain. Scaphandre ailé, aucumain. C'est insupportable. Mais si quelqu'un le fait, on sera heureux, toi et moi.
Toi, c'est tes profils sociaux, c'est Carlito ou...
Ouais, il y a Raph Carlito, Carlito le facho.
Carlito le vrai aussi, non?
Non, ça c'est McFly, ça, c'est le vrai McFly.
Merci beaucoup, Carlito.
Merci à toi, Antonin.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcasts ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelle-école.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle époque dans le salon ancien.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.